au commencement, était le pouvoir. Le pouvoir contre nous. Et la façon dont nous nous y prenions pour nous y opposer. Le pouvoir était le démon, le vrai. Les Amérindiens et les Gaulois savaient. Les Sans-Rois aussi. Comme dit Jésus dans le Discours du Sauveur, un texte du IVe siècle, retrouvé en 1945 à Nag Hammadi, « Je ne suis pas venu en seigneur, mais en soutien. Je suis votre frère secret. Au commencement était le pouvoir. Et le pouvoir est une drogue dure. Son terminus, l'écrasement, l'extermination, la destruction de populations jugées indésirables. Si au commencement était le pouvoir, à la fin était le génocide. » Comme dit Aimé Césaire dans le Discours sur le colonialisme, publié en juin 1950, « Au bout du capitalisme, désireux de se survivre, il y a Hitler. » Le pouvoir dans sa laideur s'écrivait sous forme de roman national. Il s'imposait à nous dans les livres d'école, sur les couvertures des magazines et dans les rues, sur notre route. Les statues de tous les écraseurs continuaient d'exercer leur emprise. César, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, au-dessus de nos têtes, leurs noms, écrits avec des lettres d'or, comme de la merde d'oiseaux prête à nous tomber dessus. Et puis la récupération de Jésus et de Marie-Madeleine, celle de Jeanne la gauchiste, l'acharnement des dominants contre Rousseau et Robespierre, l'oubli de la commune, le mépris pour le surréalisme, la honte de la collaboration, les mensonges et les crimes de l'histoire coloniale, l'Empire n'a jamais pris fin. Notre histoire recommence au début des années 60. Alors que s'achève la guerre d'indépendance algérienne et que la France a perdu son gros morceau d'empire, sa classe politique accepte la domination symbolique et économique des États-Unis, Nouvelle Rome, et se range à son service. Les consuls français de l'Empire vont avoir pour nom Pompidou, Debré, Marcelin, Perfitte, Giscard. Ils donneront naissance à tous les Darmanin, tous les Attal, tous les Bardella d'aujourd'hui. Avec leurs petites gueules d'empereurs romains. C'est pitié qu'on scoltine encore ces gueules d'empereurs romains. Face à cette France, comme au temps des mazarinades de Scarron et de la Fronde, la réponse va passer par le rire. Un rire coup de poing dans la gueule. Un rire plus violent que la violence du monde. Voici la grande histoire d'Harakiri, journal bête et méchant, et ses héros et génies qui ont inventé notre humour, notre rire, notre joie. Cavana, Choron, Reiser, Volinsky, etc. Le chouette beau journal. Le meilleur journal du monde. Imité à l'étranger, écrira l'historien Pascal Horry, Harakiri Charlie prit petit à petit place parmi les attributs d'une époque. Le ton écrit-parlé de Delphine de Thon et celui de Cavana déteignirent sur une partie des jeunes journalistes de Libération. Le destin météorique de Fournier, les textes-dessins de Cabu, de Gébé, de Reiser, de Volinsky marquèrent la pensée politique de leur temps plus profondément que la plupart des manifestes de parti. Oui, comme dira également le professeur Choron, son directeur de publication, Harakiri a influencé pendant 8 ans une jeunesse qui a fait mai 68. Oui, et encore oui, mais c'est une histoire double, aux éléments contradictoires. Parce que Harakiri va engendrer Charlie. Et Charlie va être sacrifié par une autre gueule d'empereur romain, une hyper gueule d'empereur romain, celle de Philippe Val, à la France américanisée dans son sport préféré, cracher à la gueule des Arabes et des pauvres. Conséquence, des dessinateurs, entre autres, seront tués. Et Charlie va être récupéré par les suppôts d'un laïcardisme militant, un laïcardisme fanatique, une armée de soldats de la France de Frankenstein, colonialiste, atlantiste, va-t-en-guerre, raciste, une extrême droite fascisante qui se méconnaît de moins en moins comme telle, mais qui continue à faire crari. Nous sommes les descendants des grands génies libertaires qui font la gloire de ce pays. Mais ce Charlie n'est pas le successeur de Harakiri. Pas du tout, et même au contraire. Ce Charlie est à Harakiri ce que le christianisme est à Jésus. Tout l'a dit. il est la récupération de son image et sa transformation en son contraire. Il utilise les armes de l'émancipation pour les faire servir au combat de l'impérialisme. Il vend la hiérarchie sociale la plus dure avec le visage de l'anarchie douce. Harakiri contre Charlie, voici l'histoire de notre avant-dernière guerre.
On meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi, tu vois.
Prévu,
on ne savait pas qu'on faisait un grand journal si on n'était pas mort aujourd'hui.
Tu vois, ça, c'est la révélation.
On ne le savait pas.
Mon nom est Paco Mthielman. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Pour cet épisode, j'ai reçu l'aide de Raphaël Carbone, Marie-Aimée Romieux, Amar Belmabrouk, Alexandre Devaux, Catherine Siné, Bernard Joubert, Virginie Vernet et Delphine Deton. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Au revoir, Aquilis. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin. Avant-dernier épisode, Harakiri contre Charlie. François Cavanna, né le 22 février 1923 à Paris, dans le 14e arrondissement, à la maternité de l'hôpital Cochin. Il meurt le 29 janvier 2014 à l'hôpital de Créteil. Il grandit dans la communauté italienne immigrée de Nogent-sur-Marne. Son père Luigi est maçon. Il vient de Bétola en Émilie-Romagne. Sa mère Marguerite est originaire du village de Sauvigny-les-Bois, dans la Nièvre. Cavanna suit les cours de l'école primaire supérieure de Nogent et obtient le brevet en 1939. Il travaille à la poste, ainsi que comme commis de marchand de fruits et légumes et comme maçon dans des entreprises du bâtiment. Bienvenue dans la France de Pétain. Le grand homme qui a fait à la France le don de sa personne et lui a imposé le service du travail obligatoire, soit la mise en esclavage de sa propre population en vue de la victoire nazie. Début 1943, Cavanna est requis par le service du travail obligatoire. On l'envoie dans la banlieue de Berlin pour le compte de l'entreprise de munitions Graetz. C'est si éprouvant que pour obtenir quelques jours de repos, il sacrifie son index gauche. Il est ensuite affecté à un commando chargé du déblaiement des gravats. Cavanna tombe amoureux de Maria, une Ukrainienne avec qui il travaille. Devant la progression de l'armée rouge, en février 1945, les employés de Graetz sont envoyés en Poméranie où ils doivent creuser des trous pour stopper l'avancée des chars soviétiques. Cavanna sera marqué toute sa vie par ce qu'il a vu durant la guerre. Je cite Cavanna. « La guerre sera toujours en moi, toujours, tant que je vivrai. » Ils ont pu faire ça. Ils l'ont fait en riant, j'en suis sûr, en chantant, en se donnant de grandes tapes dans le dos pour avoir si bien visé, en débouchant le champagne des grandes occasions. Des hommes ont pu faire ça. Les deux amoureux sèment les SS et arrivent dans un village. Cavanna laisse Maria le temps de chercher un peu de nourriture. Quand il revient, elle n'est plus là. Il demande autour de lui. Personne ne sait où elle est, ni ce qu'elle est devenue. Il part à sa recherche dans les plaines marécageuses du Mecklembourg. En vain. Il la cherche pendant un mois et demi et doit renoncer lorsqu'il est rapatrié fin mai 1945. Il ne l'oubliera jamais. À son retour à Paris, Cavanna devient dessinateur de presse. Il voudrait faire de l'humour libre, à la fois exigeant et cruel, mais c'est pas simple. La mentalité de la France de l'après-guerre n'est pas tellement différente de celle de Pétain. Qui l'eût cru ? Elle est conformiste, moralisatrice et puritaine à crever. L'heure était à la vertu, à la pureté, à la régénération, écrit Cavanna. La résistance triomphante reprenait à son compte la pudibonderie bondieusarde des vieux crocodiles pétainistes. Les communistes, très influents alors, le parti des fusillés, 2 millions d'adhérents, se voulaient plus puritains que tout le monde. On traquait le sexe sous les évocations les plus innocentes et aussi la violence, l'éloge de la paresse, de la gourmandise ou d'autres vilains défauts. On traquait par-dessus tout la vulgarité. Cavanna fait la connaissance de Liliane, une Polonaise rescapée des camps, qu'il épouse, mais qui meurt brusquement en juin 1949. Cavanna a perdu 2 amours successifs quand il entre dans le journal Zéro en janvier 1954. Un journal fraîchement créé par un certain Jean Novi. Cavana y entre tout d'abord comme dessinateur, puis il y devient rédacteur, enfin rédacteur en chef. Le journal est vendu par des colporteurs qui accrochent les passants. « Vous n'avez rien contre les jeunes ? Vous me prendriez bien mon petit journal ?» Parmi les colporteurs, un homme se fait remarquer qui va devenir le chef des colporteurs. Il va également devenir son ami et complice principal, Bernier. « Je rêvais d'un chouette beau journal. Vois l'humour tel que je le concevais », écrit Cavana dans « Lune de miel », le dernier livre publié de son vivant. Énorme, vachard, fin comme l'ambre et dur comme l'enclume, sans état d'âme comme sans concession. Je rêvais, il était entré dans mon rêve. Le soir, après la petite fête de la rentrée des colporteurs, nous parlions, nous rêvions ensemble. Un jour, nous nous sommes lancés. Le chouette beau journal, nous l'avons fait. Georges Bernier, dit Georges Bernier, né le 21 septembre 1929 à Lanneville-aux-Bois. Fils de cheminot, il a grandi à Aubréville, dans la Meuse. Surdoué, il obtient son certificat d'études à 11 ans, 3 ans plus tôt que la moyenne. Mais désormais orphelin de père, il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors il enchaîne les petits boulots. Aide magasinée à Laon, menuisier à Paris et à Rouen, employé au renflouement des navires à Toulouse. Et alors qu'il est menacé d'être arrêté par la police pour vagabondage, il s'engage dans l'armée coloniale et part en Indochine. Il va y rester 2 ans et demi. Précision. Bernier ne part pas en Indochine par patriotisme. Il y part par goût de l'aventure. Bernier est un aventurier. Plus tard, dans ses souvenirs, il racontera sa guerre d'Indochine, alors qu'il est fixé au poste de commandement de Luc Nam, au nord-est de Hanoï, à côté d'un petit cimetière dont il faut régulièrement déterrer les Maccabées pour les rapatrier en France. Le caporal-chef Bernier est alors en poste avec des Nung. Je cite ses mémoires. Ils avaient pour religion qu'il fallait manger le foie et le cœur de son ennemi pour prendre ses forces et son courage. Donc ils prenaient leur canif, ils fonçaient dans les barbelés autour du poste, et hop, je t'ouvre le ventre du bon côté, je te retire le foie et le cœur. Évidemment, au caporal-chef Bernier, on a porté ce à quoi il avait droit. C'est-à-dire un morceau de foie et un morceau de cœur que j'ai évidemment mangé. Assez vite. À son retour d'Indochine en 1953, le caporal-chef Bernier devient vendeur de journaux à la criée. Le colportage est alors semi-illégal, dans une zone grise avec le trouble à la voie publique. Et la plupart des vendeurs se retrouvent régulièrement arrêtés, emmenés au poste ou à devoir payer des amendes considérables. Qu'importe, Bernier est tellement pugnace, il n'a peur de rien, il fait le double de vente des autres vendeurs. Bernier aura une expression géniale pour parler de la dimension hypnotique du commerce. La vente, c'est des ondes que tu passes dans le cerveau de l'autre. Il prend une carte de Paris, la quadrille, et sélectionne des zones de vente qu'il teste pour voir quelles sont les meilleures. Il étudie les techniques appropriées pour attaquer le client. Il est tellement bon que Jean Novi le bombarde, chef des colporteurs. Bernier devient un meneur d'hommes hors du commun. Il les fait bosser comme des bœufs, mais il leur fait des fêtes incroyables derrière. Il sait alterner la guerre et la fête. Novi ne vivra pas vieux. Après sa mort, Cavana et Bernier décident de se consacrer ensemble à quelque chose qui existait avant eux sous le nom d'humour noir, mais auquel ils vont donner une forme nouvelle, une forme extrême. Nous sommes en mai 1960. Bernier a 31 ans, Cavana 37. Bernier propose à ses colporteurs de les suivre au 4 de la rue Choron, dans le 9e arrondissement, pour une nouvelle aventure. La nouvelle aventure, c'est Harakiri. Harakiri, le titre a été trouvé par Cavana. Le premier numéro sort le 1er septembre. Une lettre d'un militaire à la retraite va les éblouir. Vous vous croyez malin ? Eh bien, vous êtes très bête. Et non seulement vous êtes bête, mais vous êtes bête et méchant. C'était si beau, dira Cavana, que nous hurlâmes d'enthousiasme. Le journal est installé rue Choron. Bernier devient le professeur Choron. Il n'a pas encore trouvé sa silhouette. Il a encore des cheveux et un costume cravate. Mais il est déjà là, avec son pardessus noir, son fume-cigarette et son regard intense. Choron n'est pas Bernier. Bernier est le gestionnaire de Harakiri, journal bête et méchant. Mais Choron incarne l'esprit d'Harakiri. Choron est le visage de l'humour bête et méchant. L'humour bête et méchant aura un maître de paix, Cavana, et un chef de guerre, Choron. Un homme pour dire aux artistes d'épurer, d'affiner, de ne pas se laisser aller, de ne pas être complaisant. Et un autre pour leur dire d'aller plus loin, d'être plus violent, plus impitoyable. Un pur et un dur. Un homme pour dissoudre et un autre pour coaguler. Comme Lennon et McCartney, Harakiri, c'est d'abord le tandem Choron-Cavana. C'est la rencontre de ces deux êtres exceptionnels qui a généré cette électricité spéciale et permis l'attraction de tous les individus hors du commun qui vont composer ce pays, ce continent, cette île, les plus grands génies de leur temps. Fred, le dessinateur Fred, est présent dès le premier numéro. Le jeune Reiser est là, mais il ne s'est pas encore trouvé. Il signe J.M. et ne sera vraiment Reiser qu'en 1963. Cabu arrive au numéro 3, GB Topor au numéro 5, Volinsky au numéro 7. Plus tard viendront Hopf, Fournier, Willem, Copy, Carali, Villemain ou les Bazookas. Tout ce qu'il y a de bon et même ce qu'il y a de meilleur. Comme écrira GB sur un dessin commémoratif, 7 vieux potes et Odile, 14 copains, copines et Coluche, 28 amis et amis, sans oublier Bibi, 5600 fervents passés dans ces lieux mirifiques, anard et ministrable, papesse nue et antipape barbu, espion et saltimbanque, flic et académicien, radio et télé suisse, belge, US, canadienne, japonaise et quelquefois française. Les couvertures des premiers numéros sont signées Fred, les affichettes de kiosque Topor, deux colosses d'humour grave qui portent dans leurs images quelque chose qui revient de loin, de Grèce, de Pologne, des sables mouvants du rêve et de la pantomime carnavalesque. Mécontent d'être mal payé par Choron, il quitte le journal. Reiser, en revanche, ne va pas seulement rester, il va quasiment définir l'esprit Harakiri. Jean-Marc Reiser, né en 1941 dans un village de Meurthe-et-Moselle. Sa mère était femme de ménage, comme celle de Cavana, mais Reiser, lui, était de père inconnu, un soldat qui a mis sa mère en cloque. Et Reiser ne saura jamais si ce père était un Français rencontré au bal du 14 juillet ou un soldat allemand. Quand Reiser est arrivé à Harakiri, qu'il avait 19 ans et qu'il signait J.M., il faisait des dessins compliqués, tarabiscotés, maladroits. Cavana l'a rendu simple, vif, tranchant, comme cet homme qui a perdu une oreille, 7 doigts, un pied, presque toutes ses dents et qui part joyeusement au salon du bricolage. Cette année, je m'achète juste une tronçonneuse. Ou cet autre, en couverture de l'hebdo, avec le titre « Moule égale chiasse pelade vérole ». Un type la peau immonde qui bouffe sur ses chiottes. S'il fallait croire tout ce qui est écrit dans les journaux. Avec une couverture de Reiser, ça s'envolait, dira Choron. Toujours très simple, mais grandiose. C'est le mec qui travaillait vite, qui avait les plus belles idées, qui faisait les meilleures couvertures. La même idée dessinée par un autre, tu n'en voulais pas. Et c'est au point que Reiser va réaliser à lui seul un tiers des couvertures de l'hebdo. Et quelle couverture ! Les Français ont voté comme des cons. Mai 68, que sont-ils devenus ? Les racistes ont des petites bites. Franco va mieux. Il est allé au cimetière à pied. Cavana a accouché Reiser à lui-même, comme il a accouché Volinsky. Georges Volinsky. Encore un homme à l'enfance brisée. Né à Tunis en 1934, d'un père juif polonais et d'une mère italo-tunisienne. Son père avait une petite entreprise de ferronnerie d'art. En 1936, celle-ci ne gagne plus assez. Le père de Volinsky renvoie tout le monde et réembauche les meilleurs. Parmi ceux qu'il n'a pas réembauchés, un manœuvre italien, Édouard Matta. Matta revient à l'atelier et tue le père de Volinsky d'un coup de revolver. En 2015, Volinsky mourra comme son père, tué à l'arme à feu, sur son lieu de travail. Volinsky part pour la France en 1946. Un jour, au service militaire, il remarque une publicité de Topor pour Harakiri. Alors il apporte ses dessins à Harakiri. Des dessins denses, chargés, qu'un style un peu américain. En 1966, sa femme meurt dans un accident de voiture. Veuf, avec deux filles, Volinsky va continuer pendant un temps à faire ses dessins compliqués. Mais lors des réunions de rédaction à Harakiri, il a pris l'habitude de griffonner à toute vitesse des petites femmes qui courent. Et des petits hommes qui hésitent. « C'est ça qu'il faut que tu fasses, lui dit Cavana. Arrête de faire tes petits traits. » Et il va le faire. Volinsky va faire les dessins tristes les plus drôles du monde. Plus tard, il y aura Fournier, et ses pages denses, pleines de textes, copies, et ses histoires épurées, pleines de silence. Willem et son trait souple, d'une élégance folle, qui relie par ses courbes toutes les cruautés de la Terre en une gigantesque partouze volcanique. Que de merveilles dessinées. Mais dans Harakiri, ce qu'on voit d'abord, ce ne sont pas les dessins, ce sont les photos. Tous ces gags non signés, faits par la même équipe que les dessins et les textes. Non signés, parce que même s'ils ont été trouvés par Cavana, par GB, par Volinsky ou par Choron, ils ne leur appartiennent pas individuellement. Ils viennent de l'équipe. Ils sont l'expression d'un esprit. Cet esprit collectif, mais unifié, qu'on voit naître dans la rencontre de tous ces corps. Cet esprit collectif qu'on voit dans les photos de la rédaction, prises par Arnaud Baumann et Xavier Lambourg. Photos désormais mythiques. Coucou Arnaud. Tous ces pionniers qui semblent quasiment découvrir ensemble ce puits d'humour inépuisable. Ce gisement d'humour cruel, Harakiri, l'or rouge. Ce sont tout d'abord les couvertures du mensuel, éclatantes, éblouissantes de provocations. Cavana, le visage badigeonné de merde, hilar. Spécial scato, une femme de dos, un poisson découpé dans du papier mais planté avec un couteau. Poisson d'avril, deux adolescents qui regardent l'appareil avec une fourchette et un couteau. Que veulent les jeunes? Bouffer les vieux. GB, avec un képi, de la bouffe qui sort de la bouche, dont une cuisse de dinde qui semble l'étouffer. Noël, penser au mal-aimé, inviter un flic. Et quand on ouvre, ce sont les romans photos, les photos parlantes. Ce sont les fiches bricolage du professeur Choron, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Des yeux dessinés sur des bouts de papier découpés et collés sur les yeux d'un homme qui dort devant son patron, le patron qui ne remarque rien. C'est le papier collant « Au bureau, je peux dormir toute la journée sans me faire foutre à la porte ». Ou c'est le marteau et la faucille du Parti communiste transformé en coupe-carotte. Les fiches bricolage deviendront des vidéos pour Canal+, à la fin des années 80.
Hello.
Et puis ce sont les cartes postales, le Paris qui disparaît, qui raille la nostalgie à dessous des petits métiers. Un homme qui pisse dans une pissotière tenue par un autre homme. C'est le pissotier qui offre le soulagement aux passants. Un type qui met la main au cul d'une femme et un autre homme qui s'apprête à la sectionner. C'est le découpier de main au cul. Clac, la main impudique tombée et la demoiselle payée sa vertu sauve d'une petite pièce de monnaie. Et bien sûr, ce sont les fausses publicités. Comme cet homme en costard qui chie dans la rue. Un PDG s'est pressé. Ça doit pouvoir chier n'importe où. Présente à ses côtés une mallette avec du papier cul qui se dévide élégamment, son attaché cul de chez Hermès. Oui, Harakiri a inventé cette fausse publicité qu'on va retrouver ensuite sous une forme assagie à la télévision et ailleurs. C'est connu. Comme est connu le slogan d'Harakiri, si vous avez 2 francs à foutre en l'air, achetez Harakiri, journal bête et méchant. Sinon, volez-le. Cavana. Cavana qui avait inventé le slogan anti-publicitaire « La publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons » avait lui-même une sorte de génie publicitaire. Harakiri apparaît à une époque de toute puissance, de la presse photocouleur et de la publicité, mais il sait répondre avec des armes adéquates. Harakiri montre l'envers de violence et de sexualité dont la société de consommation ne tolère que l'endroit. Les membres d'Harakiri ont beau avoir tous été des rationalistes et des athées, insensibles et parfois même hostiles au surnaturel, la grandeur de ce qu'ils ont construit est proche d'une opération de sorcellerie. À quel public s'adresse Harakiri? Harakiri ne prétend s'adresser qu'à une minorité. C'est une idée de Cavana, une idée de génie. Je cite Cavana. « Nous appartenons aux 5% peut-être de la population qui déteste ce que l'on voit à la télé, dans les magazines. Mais nous existons. 5% de 50 millions de Français, ça donne 2 500 000 personnes. Supposons que sur ce chiffre, il y en ait 10% qui s'intéressent à notre journal, ça fait 250 000 lecteurs potentiels. Ceux-là vous adoreront et vous suivront partout. Ce qui lui permet une éthique de l'humour radicale, une éthique de l'humour difficile. Taper là où ça fait le plus mal, taper comme un bœuf, d'où notre dégoût du calembour, cette acrobatie stérile, ce tic de petit vieux. Contrairement à ce qu'un vain peuple pense, le calembour est plus difficile à éviter qu'à faire. Il est comme les merdes des chiens sur le trottoir. Il faut être vigilant pour ne pas marcher dedans. Alors, ça va pas être le succès tout de suite. Le numéro 3 se vend à 1500 exemplaires. Le numéro 5, c'est 4000. Mais ça monte. Le numéro 7, c'est 25 000. Ça monte, ça monte. faut savoir être patient. Comme dira Delphine de Ton, génial, certains vous diront « maintenant on pourrait plus ». Vous croyez qu'on pouvait ? On ne peut jamais. Il n'y a pas un moment où on pourrait, mais il y a des gens qui font. Quand bien même ils ne pourraient pas, ils font. Harakiri va faire. Et Harakiri va accumuler les procès. Surtout, Harakiri va être interdit. Deux fois, même trois. Il va survivre aux trois interdictions. La première interdiction a lieu dès le numéro 10, le 18 juillet 1961, par un arrêté ministériel, l'ordonnance numéro 58-1298 du 23 décembre 1958. Une ordonnance modifiant la loi de 1949 sur la protection de l'enfance et de la jeunesse. L'article stipule que n'importe quelle publication peut être interdite d'affichage si celle-ci présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime. Interdiction à l'affichage, cela veut dire que le marchand de journaux ne peut le vendre que sous son comptoir. Non seulement ça, mais si quelqu'un le lit dans un lieu public, il peut être interpellé, arrêté et traduit en justice. Et ça ne concerne pas seulement les publications destinées à l'enfance, comme dans la loi de 1949, mais les publications qui pourraient présenter un danger pour les enfants ou les jeunes. C'est vague. L'interdiction est prononcée par le ministère de l'Intérieur, après avis d'une commission de surveillance chargée de vérifier que les journaux n'exaltent pas, je cite, « ces valeurs de nature à démoraliser l'enfance et la jeunesse ». Démoraliser la jeunesse. De plus en plus vague. Quelles valeurs ? Le mensonge, le vol, la paresse, la haine. Un journal qui exalte la paresse ? Yep, vous avez compris l'astuce ? Cette interdiction contourne le problème de la censure tout en continuant à la pratiquer. On dit qu'on est sorti de Pétain et de la Révolution nationale, mais ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on ne survit pas à une interdiction à l'affichage. Il faut demander qu'elle soit levée. Cavana et Choron vont demander qu'elle soit levée. L'interdiction est levée au bout de 6 mois, 5 ans plus tard, le 29 mai 1966, alors que Harakiri a non seulement réussi à survivre, mais tire désormais à 210 000 exemplaires, notamment grâce à la publicité que leur fait Francis Blanche à la radio sur Europe 1, qui n'est pas encore l'Europe 1 de Bolloré. Le journal est de nouveau interdit à l'affichage. Cette interdiction-là durera 7 mois. Une pétition est écrite et signée pour protester contre l'interdiction. Parmi les signataires, Georges Brassens, André Breton, Edgar Morin, Raymond Queneau, Alain René. Pour régler les dettes d'Harakiri, 4 millions de francs quand même, Choron échappe à la liquidation judiciaire en se faisant le gigolo d'une vieille dame acariâtre et obsédée sexuelle. Une septuagénaire très riche qui vit avenue Trudaine. Tout cela est aussi fou que ça en a l'air. Le journal passe de la rue Choron à un local prêté rue de la Grande Truanderie, puis s'installe rue Montholon, pas loin du square Montholon, ce qui donne son nom à la maison d'édition, les éditions du square. Entre-temps, en 1963, Choron est apparu à la télévision dans Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty. Harakiri n'est pendant l'essor, non seulement de la presse imprimée couleur et de la publicité, mais de la télévision, à une époque où celle-ci est largement tenue en bride par le ministre de l'Information, l'autoritaire, arrogant et stupide Alain Perfitte, qui se tient garant du caractère apolitique et inoffensif de celle-ci.
Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler.
Lors de sa première apparition à la télévision, le professeur Choron explose un téléviseur. Et il dit
« Vous visez bien au centre !»
Ensuite, vous videz votre récepteur. Ensuite, vous prenez un lapin blanc, vous prenez un lapin noir, vous prenez un grillage et vous fermez.
Voilà un magnifique clapier.
La levée de la deuxième interdiction et le retour du journal en kiosque voient l'arrivée de Delphine de Ton. Delphine de Ton arrive dans Harakiri en février 1967 comme auteur des mémoires de Delphine de Ton. Les mémoires de Delphine de Ton par Delphine de Ton. Il a envoyé son manuscrit à la rédaction en 1965. Cavana n'a pas lu tout de suite, puis il y a eu l'interdiction, et Cavana a lu. « J'ai eu ce choc de bonheur qu'on n'a que quelques fois dans une vie », dira Cavana. Quand le journal est reparu en 67, Cavana a publié le premier chapitre. Sans prévenir, sans appeler avant, Delphine se retrouve dans le journal. Et puis il est convoqué. Il découvre une équipe qui a perdu plus de la moitié de ses auteurs. Plus de Fred, plus de Topor, plus de Cabu ni de GB, qui dessine désormais dans l'hebdomadaire Pilote. Il ne reste que Reiser et Wolinski, et puis Fournier, le prophète de l'écologie, du végétarisme et de la décroissance, qui apporte ses pages entre son travail à la Caisse des dépôts et consignations et le retour dans sa famille en lointaine banlieue. On a vraiment l'impression que c'est la fin. C'est pas la fin, à peine le commencement. Cavanna était alors quasiment le seul écrivain de journal. Il remplissait la moitié de celui-ci sous plusieurs pseudonymes pour donner l'impression d'une équipe nombreuse. Pendant un moment, de 1964 à 1966, il avait été rejoint par Melvin Van Peebles, le futur cinéaste noir américain qui écrivait des nouvelles.
Si tu dis quelque chose de mal passé, je te casse la gueule.
Des nouvelles illustrées par Topor, qui seront ensuite publiées en livre sous le titre « Le Chinois du XIVe ». Melvin Van Peebles adaptait également « La Reine des Pommes » de Chester Himes en bande dessinée pour Wolinski. Mais il était reparti aux États-Unis pour faire des films. Cavanna était content d'en trouver un autre d'écrivain. Et quel autre ? Cavanna et Choron disent à Delfeil qu'il fait désormais partie de l'équipe. Cavanna confie à Delfeil de Ton de nouvelles rubriques, le cinéma de Delfeil de Ton, le jazz de Delfeil de Ton. Il écrit aussi des nouvelles sous un autre pseudonyme, Gunnar Vollert, traduit du suédois. Surtout, il apporte, que dis-je, il apporte, il invente la dimension journalistique de Harakiri. Parce que nos grands génies ne sortaient pas de leur bulle, ou si peu. Mais Delfeil va aller partout. Au concert de free jazz, au théâtre, au café-théâtre, au cinéma, en librairie. À une ou deux générations successives, il va faire découvrir le meilleur de son temps. Sun Ra, Albert Ayler, The Art Ensemble of Chicago, Steve Lacy, le Grand Magic Circus, le Café de la Gare, Guénolé Azertiop, les publications situationnistes, Bazooka, et Céline et Julie vont en bateau. Littéralement, Delfeil voit ce que les autres ne voient pas. Delfeil de Ton rattache Harakiri à son époque, il invente une culture contemporaine au journal, il le fait sortir du Square Montholon. Delfeil, qui regarde tout ce qui se fait également en matière de presse, va être à l'origine d'une deuxième publication des éditions du Square, Charlie. Pas l'hebdo, le mensuel. Charlie, le premier journal français de bande dessinée pour adultes. Charlie est initialement inspiré du journal italien Linus, qui publie des bandes dessinées italiennes et américaines sous le patronage des Peanuts de Charles Schulz. Les Peanuts, Snoopy quoi. L'idée de Delfeil, qui lit les journaux italiens, quand Cavanna et lui vont superviser l'impression de Harakiri à Milan, et de faire la même chose en français. Publier des classiques américains et rééditer des pages de Harakiri, puis de nouvelles bandes dessinées de nouveaux auteurs, des auteurs pour adultes, qu'ils soient français ou non, comme Crépax, Pichard, Buzelli ou Copy. Le génial Copy. Cavanna et Choron bombardent Delfeil, rédacteur en chef. Choron trouve aussi le titre en revenant d'un déjeuner avec l'imprimeur. Charlie, pour Charlie Brown. Le premier numéro sort en février 1969, mais diriger un journal ennuie Delfeil, qui refile le rôle de rédacteur en chef à Wolinski à partir du numéro 19. Et Wolinski dirigera Charlie pendant plus de 10 ans. Ce sera haut la main, le meilleur journal de bande dessinée français et même européen, parce que Charlie est une aventure éditoriale européenne. Coucou Fabienne. En février 1969, Cavanna et Choron lancent également un hebdo. Moins parce qu'ils veulent parler de l'actualité que pour donner du travail à GB et Cabu, qui étaient partis à Pilote, qui sont revenus après plusieurs années d'absence et qu'il s'agit de faire travailler exclusivement pour les éditions du Square. Et puis on sort juste de mai 68. 5 à 6 semaines où la France était totalement paralysée. Aucune école ne fonctionnait, personne ne pouvait poster une lettre ou encaisser un chèque, prendre le métro ou trouver des cigarettes. C'est avec beaucoup d'injustice et d'incompréhension surtout qu'on a réduit mai 68 au passage d'une bourgeoisie conservatrice autoritaire à une bourgeoisie libérale et pseudo-permissive. Ça, c'est ce qu'en ont fait le pouvoir et ses relais médiatiques. Comme l'explique Christine Ross, la grande historienne de la Commune, dans son livre « Mai 68 et ses vies ultérieures », mai 68 a été la grève la plus importante de l'histoire du mouvement ouvrier français et l'unique insurrection générale qui ait connu les pays occidentaux surdéveloppés depuis la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette période, la logique policière continue à séparer les étudiants des travailleurs, à empêcher les contacts, à cantonner les étudiants dans le quartier latin. La violence avec laquelle cette tâche fut accomplie, que ce soit par les délégués syndicaux de la CGT, par De Gaulle, par le Parti communiste, par la police elle-même, donne une idée de la menace qu'une telle politique représentait. Mai 68, Harakiri l'a vu de loin. Cavanna était hospitalisé pour hémorroïdes. Ils étaient encore dans le 9e rue Montholon et Choron disait que depuis le 9e, on voyait rien. Mais la jeunesse politisée de 68 avait été motivée par l'esprit Harakiri. Elle avait été inspirée par l'humour de ses membres, par leur sens de la provocation, par leur sens du slogan.
On considère qu'il n'y aurait peut-être jamais eu de mai 68 en France si Harakiri n'avait pas existé en France.
Et puis il y avait le journal L'Enragé. L'Enragé, lancé et dirigé par Ciné avec Volinsky. L'Enragé suivait Ciné Massacre, un premier journal où Ciné attaquait le pouvoir militaire et policier avec une violence qui n'avait d'égal que son extrême drôlerie. Dans L'Enragé, on pouvait trouver également des dessins de Cabu, de Gébé, de Reiser, de Topor, de Willem, déjà célèbres dans le dessin d'humour, notamment pour ses prises de position lors de la guerre d'Algérie. Ciné est un ami d'Harakiri, même s'il trouve que Harakiri n'est pas assez politisé. Il le leur reproche. Il finira par faire partie de l'équipe quand même, plus ou moins, à la marge.
Harakiri a fait des progrès, pas toi.
Oh, Ciné, on est bien d'accord, mais ce que avant, je veux dire, c'est ne pas prendre le ton préchiffré, ça ne pas prendre militant.
Le seul de la bande à se politiser, c'est Volinsky. C'est une politisation paradoxale. Sympathie ostentatoire pour le Parti communiste et amour du luxe et des choses chères. C'est son dessein. Rien n'est trop beau pour la classe ouvrière, avec un couple de prolétaires sexy qui sabrent le champagne. Volinsky fait surtout des bandes dessinées hilarantes où l'on voit deux messieurs réactionnaires qui commentent l'actualité. À partir de ses dessins politiques, il écrit la pièce « Je ne veux pas mourir idiot », mise au théâtre par Claude Confortès, avec Hermine Caragueuse comme premier rôle féminin. Volinsky aura cette phrase fameuse « On a fait 68 pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus ». Harakiri lance son hebdo en 1969, mais celui-ci ne marche pas très fort. Le premier numéro ne vend que 10 000 exemplaires. Ça monte ensuite un peu, mais ça stagne autour de 25 000. Pendant un temps, Choron ne peut même plus payer sa bande de génie. Encore une fois, on croit que c'est la fin. Et puis, c'est pas la fin. De Gaulle va leur faire un beau cadeau. Il va mourir. Harakiri est né 2 ans après le début de la Ve République, durant la présidence de De Gaulle. Et Harakiri vit avec difficulté durant le règne de De Gaulle. Le journal se tient la tête hors de l'eau. Il va s'épanouir à sa mort. C'est Choron, qui n'aurait été l'auteur que d'une seule une de toute l'histoire de l'hebdo, qui trouve celle qui deviendra mythique. Balle tragique à Colombey, un mort. Pourquoi est-elle devenue mythique? Tout d'abord, parce que la mort de De Gaulle, le 9 novembre 1970, suit un fait divers qu'avait rempli les pages et les unes des journaux depuis le 1er novembre. L'incendie du 5-7, discothèque de Saint-Laurent-du-Pont, 146 morts. Les unes se suivent et se ressemblent. Balle tragique à Saint-Laurent-du-Pont. Balle tragique à Saint-Laurent-du-Pont. Avec le nombre de morts. Ensuite, parce que tout le monde pleure le grand homme. Et Harakiri ne pleure pas. Ça a pas loupé. Interdiction à l'affichage. Le 15 novembre 1970, Harakiri Hebdo est interdit par un arrêté ministériel en vertu de la loi de 1949. Le 23 novembre, soit exactement la semaine d'après, sort le premier numéro de Charlie Hebdo, quasiment identique, avec une couverture de GB géniale, le slogan « Il n'y a pas de censure en France » et un aveugle qui dit « Mieux vaut entendre ça que d'être sourd ». C'est allé très vite. Entre-temps, quasiment toute la presse s'est mobilisée pour défendre l'hebdo. Le Nouvel Observateur leur ouvre ses pages. La CGT du Livre et les syndicats de journalistes suivent, et même Le Monde et L'Express. Alors qu'il n'y avait eu personne lors des 2 précédentes interdictions. Et la Fédération de la Presse demande audience au ministre de l'Intérieur, Marcellin, qu'on soupçonne d'être à l'initiative de l'interdiction. Marcellin, on l'a bien oublié celui-là. Pourtant, c'est lui qui incarnait le retour à l'ordre après 68. Raymond Marcellin, un beau fumier, un ancien de Vichy, où il était chargé de diffuser les idées pétainistes. Il a échappé à l'épuration pour avoir refilé des informations à un sous-réseau résistant nommé Druide. Il sera ministre de l'Intérieur de 1968 à 1974. Marcellin succède alors à un certain Christian Fouché, ce qui permet à De Gaulle un mot d'esprit pas très rassurant. De Gaulle appelle Marcelin « Fouché le vrai », en référence au Fouché, ministre de la police sous le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Seconde Restauration. Joseph Fouché, un vrai démon, le flic absolu. Marcelin, c'est supposément son bébé spirituel. Mais Marcelin voit l'ampleur de la réaction à l'interdiction de l'hebdo et y prend peur. Alors que Charlie Hebdo va clairement être une contrefaçon de Harakiri Hebdo, contrefaçon une infraction passible de prison. Marcelin ne poursuit pas. Il craint de déchaîner une nouvelle campagne de presse contre lui et il ferme sa gueule. C'est qu'en trois ans, l'époque a totalement changé. Elle a tellement changé que le journal ne va pas un peu marcher. Il va marcher du feu de Dieu. Charlie Hebdo va être le journal des étudiants, des lycéens, des gauchistes, des écolos, des marginaux. L'Hebdo aura ses cibles et Marcelin en fera partie. Comme sur cette couverture où Reiser le montre en train de se pendre, carrément, avec les gens qui l'encouragent. Il y aura le centriste Jean Le Canuet, garde des Sceaux. Une gueule qu'on aimerait écraser à coups de tatane. Ou encore Michel Debré, dont le port de l'entonnoir commencera avec la couverture de Volinsky du 20 novembre 1972 et l'entonnoir ne le quittera plus dans les pages du journal. Harakiri Hebdo ne marchait pas assez bien pour un hebdo. D'où le fait qu'on pensait que ça allait s'arrêter. Les Chorons ne payaient plus. Après interdiction et republication sous le titre de Charlie Hebdo, en 6 mois, on va passer de 25 000 exemplaires à 120 000 exemplaires vendus par semaine. Et on montera jusqu'à 160 000 en 1974. Le succès de l'hebdo rejaillit sur Charlie Mensuel, qui tire désormais à 100 000 et Harakiri 120 000 exemplaires. Choron va même donner à Fournier son propre journal, La Gueule Ouverte, un mensuel écologiste qui sort à partir de novembre 72 et vend son premier numéro à 70 000 exemplaires. La Gueule Ouverte, le journal qui annonce la fin du monde. Le titre et le sous-titre ont été trouvés par Choron. Fournier aurait préféré La Nef des Fous, en hommage au tableau de Bosch. C'est déjà Harakiri, La Nef des Fous. C'est la France d'Harakiri. Charlie Hebdo, donc. Qui a trouvé le titre? Eh ben, on sait pas. Il y avait 2 mensuels, Harakiri et Charlie. On interdit Harakiri Hebdo, ils sortent Charlie Hebdo. C'était si évident. Il n'empêche que cette histoire de titre va être au cœur du déchirement entre Choron et les autres, 20 ans plus tard. On va y venir. Dans son excellent livre « Bête, méchant et hebdomadaire », Stéphane Mazurier analyse ce qui fait la singularité de Charlie Hebdo dans la presse des années 70. Charlie Hebdo est un journal de gauche non militant, antimilitariste, contre les violences policières, pour le féminisme, pour l'écologie, sensible à la cause animale, tout ça, oui, mais de façon comique, agressive, sans sentimentalisme, sans larmes à l'œil, antimilitariste. Les Troufions vont se plaindre de leur traitement dans l'hebdo. Ce sera par exemple un procès spectaculaire en 1978 contre Reiser, Choron, Cavana et Cabu. Cabu, pour un dessin où il traite les soldats français de gang des égorgeurs. Cavana, pour avoir publié une lettre de lecteur antimilitariste. Choron comme patron des éditions du Square. Et Reiser pour sa couverture. Budget de l'armée, 68 milliards de confitures aux cochons. Montant des amendes cumulées des 4, plus de 15 000 francs. Contre les violences policières, celles-ci sont dénoncées constamment par Delfeil de Ton. Delfeil et Cavana seront conduits en novembre 72 devant la 17e chambre du tribunal correctionnel pour répondre de, je cite, « crimes d'outrage, injures, diffamation et diverses autres imputations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la respectabilité de la police française ». En fait, c'est à l'utilisation des flics par le pouvoir en place que j'en avais, se souviendra Delfeil de Ton. Les flics, ils sont ce que le pouvoir en fait. Si le flic se conduit comme un fumier, c'est que le pouvoir le lui demande ou que le pouvoir le tolère, ce qui revient à la même chose. Le pouvoir, dans l'après 68, la police incarnée, le bâton en chef, la matraque pensante, c'était Marcelin, Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur. Raymond, mon anti-héros. J'ai fait un bon bout de chemin avec lui. Il était à la grosse caisse, j'avais un sifflet. Pour le féminisme, malgré les provocations qui pourraient faire croire le contraire, c'est la couverture de Reiser de 78 lors du choix du nouveau pape. Élisez une papesse, bande de cons. C'est même toutes les bandes dessinées de Reiser. Vive les femmes, Janine, les copines. en avril 71, quand le Nouvel Observateur publie le manifeste des 343 pour la légalisation de l'avortement. Notre ventre nous appartient. Charlie Hebdo fait un numéro spécial pour les soutenir, le spécial salope. D'où le fait qu'on se souvienne désormais du manifeste comme de celui des 343 salopes. Et l'édito de Cavana laisse peu de doute sur la fermeté de leur soutien. Au nom du droit à organiser sa vie comme on l'entend, du moment que ça n'emmerde personne. Harakiri n'a pas un discours moral. Harakiri a un discours d'émancipation. Écologiste. C'est avec Fournier que le journal découvre l'écologie. Fournier, dont les contributions enthousiasment jusqu'au génie mathématique Alexandre Grothendieck, qui lui écrit en décembre 70 « Il y a plus de bon sens et même de sagesse écologique dans une feuille de Charlie Hebdo que dans toute la presse quotidienne réunie. » Fournier organise le grand rassemblement antinucléaire de juillet 71 sur le site de la future centrale de Bugey à Saint-Vulbas dans l'Ain. 15 000 personnes, 15 000 pionniers, dira Gébé, ayant vécu le premier voyage dans le temps. En 76 et 77, Gébé et Cabu participent aux manifestations de Malville, dans l'Isère, contre l'implantation du surgénérateur Superphénix. Et Reiser s'enthousiasme pour l'énergie solaire. Enfin, sensible à la cause animale, même si la plupart des membres mangent de la viande. La grande défenseuse de la cause animale dans le journal sera Paul Drouot, qui signe Paul. Vive les Pauls. Coucou Paola. Mais on verra, dans les dessins de Reiser comme chez Cavana, une opposition constante à la chasse et une détestation des chasseurs. « La chasse, c'est le meurtre », écrit Cavana. Tout le reste est papillote pour faire joli autour. Stéphane Mazurier définit également très bien les spécificités de Cavana et de Choron comme rédacteur en chef et directeur gestionnaire. Leur singularité. Le style de Cavana rédacteur en chef, explique Mazurier, c'est l'artisanat. On construit un journal en mettant des dessins et des textes les uns à côté des autres et en remplissant les espaces vides soi-même s'il y a besoin. Et j'ajouterai le non-interventionnisme. Cavana devine les talents. Il choisit les auteurs, les encourage à être eux-mêmes, puis il les laisse totalement libres. Il ne corrige rien, ne reprend rien. Il leur donne une page dont ils sont responsables. C'est peut-être ce non-interventionnisme à la tête du journal qui a entraîné cette absence totale de jalousie entre les membres. Une vraie fraternité de génie. Ils font leur page chacun chez eux et se retrouvent une fois par semaine pour trouver la couverture. Là, c'est un travail acharné, sans fin, mais aussi sans rivalité. C'était extraordinaire, se rappellera Sylvie Caster. Il n'y avait pas de jalousie chez ces gens qui étaient tous surdoués. La jalousie, c'est pour les gens qui sont pas doués. Ils se vexaient pas du tout. On prenait le meilleur dessin, celui que tout le monde trouvait le meilleur de la semaine. Ça pouvait être un Volinsky, un GB, un Cabu. Et cette espèce de petit truc rance qui est la jalousie, qui est affreux, il n'y en avait pas. Ce qui fait de Cavana un chef, un vrai chef, mais un chef de chefferie amérindienne. Comme l'explique Pierre Clastre dans La Société contre l'État, dans une chefferie amérindienne, le chef parle beaucoup, mais il ne donne aucun ordre. Cavana donne son avis sur tout, mais il laisse tout le monde libre. C'est un chef amérindien ou gaulois, au sens de Laurent Olivier dans Le Monde secret des Gaulois. Ce n'est pas pour rien que Cavana ressemblait à Vercingétorix. Sa manière de diriger les choses, c'est de refaire le monde, et surtout l'histoire de France qu'il raconte et re-raconte. On le voit dans ses dessins de Volinsky, où il montre Cavana au milieu de la rédaction, racontant la guerre de 100 ans pendant des heures. Pendant 100 ans. On ne dira jamais à quel point le programme que vous êtes en train de voir, L'Empire n'a jamais pris fin, doit à la vision de l'histoire de Cavana, avec un Napoléon pour rire, dont on exagère dans le roman national l'enthousiasme pour les idées de la Révolution, mais aussi un Robespierre honnêtement magnifique. Et des Romains exterminateurs glaciaux. Les Romains n'étaient pas des vainqueurs magnanimes. Ils pillaient, violaient et égorgeaient, avec ordre et discipline, certes, mais justement, derrière eux, il ne restait pas une miette. Merveilleux Cavana. Et comme dans toute société première, il y a un chef pour la paix, Cavana, et un chef pour la guerre, Choron. Le style de Choron comme gestionnaire, explique Mazurier, c'est l'optimisme et la ténacité. Il va tout faire, et pas mal de conneries d'ailleurs, mais il réussira à faire vivre son journal pendant 25 ans. Ténacité donc. J'ajouterai le désordre, ce qui recoupe le style de la guerre révolutionnaire. Choron, c'est la guérilla des affaires. Tout fait gestion dans une journée de Choron. On fait boire les banquiers qui prêtent de l'argent. On les invite à bouffer dans le bon restaurant qui vous fait crédit. Des dettes s'accumulent partout. On en rembourse quelques-unes, celles qui attendent depuis trop longtemps. L'important, c'est que les dettes ne soient pas toutes au même endroit. Quand le journal va mal, Choron ne peut plus payer personne. Quand le journal va bien, il les paye beaucoup. Il les paye même trop. Ce sera le cas durant les quatre années fastes, 71-75, quand l'hebdo vendait autour de 150 000 exemplaires. Là, Choron augmente tout le monde. Le chiffre est difficile à évaluer. Il se souvient leur avoir dit « Je vous triple vos salaires ». Mais si on en croit les chiffres donnés à la fois par Volinsky et par Delfeil, à savoir 180 francs mensuels en 67 et 30 000 en 72, c'est plutôt 16 500% d'augmentation. Le journal change d'adresse. En septembre 72, on passe des 50 mètres carrés loués rue Montholon aux 500 mètres carrés achetés rue des Trois Portes. 500 mètres carrés achetés. Ce sera l'adresse la plus fameuse d'Harakiri et les locaux les plus représentés dans les dessins ou dans les films. Rue des Trois Portes. C'est également l'adresse où passeront plus de la moitié de leur semaine Cavana et Choron. Cavana, qui a un bureau sur la cour face à la rédaction, qui restera ensuite son pied-à-terre. Et Choron, qui s'installe dans les caves à la fin de sa vie. Tous deux, face à face, même après leur brouille. La présidence de Pompidou accompagne les années fastes d'Harakiri. Georges Pompidou, né en 1911 à Montboudif, dans le Cantal. Premier ministre du 14 avril 62 au 10 juillet 68. Président du 20 juin 69 à sa mort, le 2 avril 1974. Pompidou, le modernisateur, fils d'instituteur, agrégé de lettres, il se tient à l'écart de la politique pendant l'occupation. Avec l'appui d'un ami, il devient un homme de confiance de De Gaulle après la libération. Avec l'appui d'un autre, il entre à la Banque Rothschild en tant que directeur général. Il est encore un quasi-inconnu lorsque De Gaulle le nomme Premier ministre en 1962. Il le restera pendant 6 ans. Après 68, il devient son opposant silencieux. Il ne croit pas au rêve de son grand homme de créer une troisième voie entre capitalisme et communisme. De Gaulle voulait obliger les entreprises à donner à leurs employés un pourcentage sur leurs bénéfices. Pompidou est là pour que le capitalisme reste capitaliste. De Gaulle avait quitté fièrement le commandement intégré de l'OTAN. Une fois président, Pompidou va se faire docile avec Nixon. Il va également relancer la construction européenne. Il investit dans les autoroutes, l'agroalimentaire, le nucléaire, ce qui ne l'empêche pas de pondre une anthologie de la poésie française, tout ce qu'il y a de plus conforme. Pompidou, c'est l'homme des bagnoles et de la culture, du surgelé et de l'art contemporain. C'est le 2 avril 1974, alors que l'hebdo est à son pic, que Pompidou casse sa pipe. Ce sera la plus belle des couvertures, la plus forte. Un dessin de GB avec Pompidou barré et la phrase « Plus jamais ça ». Qui d'autre a célébré comme ça la mort d'un président ? Personne. Jamais. Mais pour vous donner une idée de la brièveté de ces choses, Charlie Hebdo, acheté par 120 000 personnes en 1974, ne l'est plus que par 30 000 en 1979. Et on en est carrément à moins de 3 000 exemplaires sur Paris en décembre 81. Une misère. Pour vous donner une idée également, en 1981, le Canard enchaîné vend alors en moyenne 730 000 exemplaires par semaine. Ce qui va perdre le journal, c'est compliqué à suivre. Ça se déroule le long de la présidence de Giscard.
Bonne chance du fond du cœur.
En gros, c'est le moment où la droite, dans la continuité de Pompidou, se modernise. Mais sous Pompidou, la dimension policière, répressive, incarnée par Marcellin, restait très présente. Avec Giscard, il y a une sorte de permissivité apparente qui va avec son image de grand libéral. Et le journal ne sera pas interdit. Le début des années non fastes est marqué par le départ de Delfeil de Thon en 1975 et son entrée au Nouvel Observateur. Pour beaucoup, le départ de Delfeil de Thon annonce la fin programmée de l'hebdo 6 ans plus tard. C'est l'avis de Choron, par exemple, qui le répète souvent. Je cite Choron. Delfeil de Thon, c'était le mec qui sortait, qui regardait, qui voyait et rapportait ça dans le journal et faisait son commentaire. On l'a remplacé par du journalisme en chambre. Il prenait un truc, il faisait une tartine. C'était du journalisme d'état d'âme. Quand tu as que ça dans un journal, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas remonté les ventes. Mais l'autre raison pour laquelle les ventes baissent, c'est que l'esprit Harakiri a infusé toute l'époque. Elle n'a plus besoin d'Harakiri. Elle est Harakiri. les dessinateurs de bande dessinée se sont émancipés. Gottlieb, Mandrika et Bretéché ont quitté Pilote pour créer L'écho des savanes. Gottlieb enchaîne en créant Free Glacial. Giro, l'auteur de Blueberry, lui aussi a quitté Pilote. Il reprend le nom Moebius, né dans Harakiri, dans Métal Hurlant. Il va y avoir la révolution esthétique de Bazooka. Et tous les grands imagiers, tous les génies de la bande dessinée et de la peinture depuis les années 70 jusqu'à nos jours, de Placide et Olivia Clavel à Matt Conture et Kilofer, tous impensables sans Harakiri. Les comiques se sont émancipés. Pierre Desproges, par exemple, qui disait de Cavana qu'il était aussi important que Rabelais. Le génial Louis Rego. Plus tard, il y aura les nuls. Il y aura les guignols. On n'oublie pas que Bruno Gassiot a été le gendre du professeur Choron. Il y aura Groland, dont certains membres ont commencé dans Harakiri. Berroyer, qui a travaillé à Harakiri, travaillera dans Nulle part ailleurs. Tout ce qui va se faire en humour jusqu'à nos jours est également impensable sans Harakiri. Mais surtout, et avant tous, c'est Coluche. Coluche est rigoureusement inimaginable sans Harakiri. Avant qu'il ne devienne célèbre, comme tous ses collègues du Café de la Gare, Romain Bouteille en tête, Coluche s'inspirait de Harakiri et était soutenu par Harakiri. Il était présent dans les romans photos, les photos parlantes. Delfeuille annonçait ses spectacles. Harakiri lui faisait sans cesse de la pub. Ça lui a donné beaucoup de force. Puis Coluche va devenir une star d'une ampleur nationale. Pas sous Giscard, dès Giscard. Le soir même de l'élection de Giscard, le 19 mai 1974, alors que le vaincu, François Mitterrand, se fait attendre pour son discours de défaite et qu'il faut meubler l'antenne.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur.
Des millions de Français découvrent alors Coluche. Coluche, le clown prolétaire, avec sa salopette hoche-coche, ses chaussures jaunes et son nez rouge. Coluche, dans ce qui sera un de ses sketchs les plus célèbres, un de ses tubes, l'histoire d'un mec.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non?
Un méta-sketch. Un sketch sur le fait de raconter un sketch.
Attends, parce que je vais vous fendre la gueule après.
La France ne s'en remettra pas de Coluche. Jusqu'en 1974, Coluche était soutenu par Harakiri. Désormais, c'est lui qui va soutenir le journal. En 78, alors que l'hebdo commence à accumuler les difficultés, Coluche décide de tenir une rubrique régulière de 2 pages dans l'hebdo. Les pauvres sont des cons. Et puis, il y aura la campagne de Coluche, candidat à la candidature de la présidence de la République, à partir du 30 octobre 1980. Quelle histoire. Depuis le début de la 5e, il y a eu des candidats marginaux ou pittoresques. Marcel Barbu, en 1965, traité de brave couillon par De Gaulle, alors qu'il incarnait, plus que lui, même si sans doute moins bien que lui, les valeurs de la résistance. Marcel Barbu, candidat des mal logés, des vieillards abandonnés, des malades sans soins et des jeunes sans espérance. En 69, le candidat pittoresque est moins sympathique. C'est Louis Ducatel, un milliardaire en guerre contre le fisc. En 1981, ça aurait pu être Coluche. Coluche, sur lequel vont se regrouper des philosophes de gauche qui ne se retrouvent pas dans l'offre politique de la fin des années 70, comme Gilles Deleuze et Félix Guattari, ou Pierre Bourdieu. C'est pas rien. Et Coluche lance un appel dans Charlie Hebdo. J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux,
les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques.
À voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble pour leur foutre au cul.
Le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir.
Bourdieu aurait dit à la veuve de Coluche, Véronique, que ce texte avait pour lui la même valeur que la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Non, c'est pas rien. Dès son annonce le 30 octobre 1980, Charlie Hebdo va faire la campagne de Coluche. Pendant 3 mois, la dernière page du journal est littéralement un tract en faveur du candidat, avec des promesses extrêmes. Tout le monde riche, la politique est supprimée, l'armée française est supprimée, et finalement, démagogie maximum. Imaginons que Coluche soit élu.
Nous, demain, nous devenons l'organe officiel de la République française.
C'est un vrai coup de pub pour le journal, mais à double tranchant, parce que ça va aller très vite. Lorsque Coluche va être crédité jusqu'à 11 ou 12% d'intention de vote, début mars, Jacques Attali, bras droit du candidat Mitterrand, va lui demander de se retirer. Jean-Michel Vagelzi, le secrétaire de Coluche, qui était présent lors de leur rencontre, le racontera. « On sait que vous ferez un score important », lui aurait dit Attali. « On ne peut pas prendre le risque que Mitterrand soit troisième à l'issue du premier tour. » Information qui n'a pas été démentie. Et puis il y a les lettres de menaces de mort, signées « Honneur de la police », que Coluche reçoit régulièrement. Il y a le fait qu'il soit désormais interdit d'antenne, même dans les émissions humoristiques. Bref, le 16 mars 1981, Coluche se retire.
Au revoir.
Mais Charlie Hebdo n'embrasse pas pour autant la candidature de Mitterrand. « Nous ne nous sentions rien de commun avec ce bourgeois ambigu », dira de lui Volinsky. Et Sylvie Caster le traite, juste avant l'élection, d'insondable fauderche, animé par la soif extrême du pouvoir. Cependant, le 10 mai, Cavana, Caster et Cabu sont place de la Bastille pour fêter le paillasson. Même Reiser, même s'il y est surtout allé en observateur. Et seul Choron semble franchement déplorer sa victoire. Charlie Hebdo se retrouve alors dans un entre-deux bizarre. On ne peut pas dire qu'ils aient soutenu Mitterrand, mais ils ont quand même surtout attaqué les autres. Le candidat socialiste est dans les derniers jours de la campagne très peu présent dans les pages de Charlie Hebdo, écrit Stéphane Mazurier, alors que se multiplient les dessins contre les autres prétendants. On peut y voir là une forme d'autocensure de la part de la rédaction, puisque Mitterrand a de bonnes chances de l'emporter, peut-être vaut-il mieux ne pas compromettre ses chances et éviter de parler de lui. C'est compliqué. C'est compliqué. Un des livres de Cavana s'appelle « Gauche-droite, piège à con ». Et Choron disait « À partir du moment où t'es militant, t'es un con ». Pourtant, à part Choron, tous votaient. Tous votaient à gauche. Le plus sincère dans ses contradictions, Siné, le dira en avril 1981. « Moi, je suis comme ça. Ma tête, mon cœur, mes couilles ont beau me hurler « N'y va pas, j'y cours ». Un besoin irrépressible, comme une monstrueuse envie de chier. M'abstenir, alors que j'ai une chance de virer Giscard, plutôt crever. L'hebdo s'arrête entre fin 1981 et début 1982. Au moment de sa mort, une émission « Droit de réponse » consacrée à Charlie Hebdo va faire scandale. Le présentateur, Michel Polac, répartit très mal la parole. Cavana a le temps de dire sa peine et sa colère. Mais deux cons, Dominique Jamet et Jean-François Kahn, monopolisent le temps d'antenne pour répéter 15 fois la même chose. Siné traite de salope un journaliste de minutes et se lève même pour lui casser la gueule.
« Il m'a beaucoup amusé, d'autant qu'il leur a valu des ennuis. »«
C'est ce salope. »
Non, Siné, je vous en prie.
Un lycéen de Condorcet explique que les jeunes ne lisent plus Charlie Hebdo.
Ce sont des vieilles gens, un journal qui n'est plus de leur temps.
Comme si les jeunes dans son genre avaient lu Charlie Hebdo par le passé. Choron engueule Polac. Pourquoi tu invites des lycéens? C'est des merdeux, c'est des trous du cul.
Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule.
On le chasse du plateau. Et le lendemain, la presse les insulte. Bande de porcs, éponge à whisky, télécloaque. Harakiri ne va pas non plus se remettre de la mort de Reiser. Des suites d'un cancer des os, le 5 novembre 1983, il n'avait que 42 ans. Lors de la mort de Reiser, l'équipe produit une couronne mortuaire avec l'inscription « De la part de Harakiri, en vente partout ». Cavana a une de ses grandes formules. Le dernier qui restera se tapera toutes les veuves. Et Harakiri sort un hors-série qui reprend la couverture de Reiser sur Franco, le cercueil avec les pieds qui marche. Et comme titre, « Reiser va mieux, il est allé au cimetière à pied ». Plus magnifique, tu meurs. Mais avec la mort de Reiser, quelque chose s'arrête qui ne reprendra pas. Harakiri cesse de paraître en 1987. Plus tard, beaucoup plus tard, dans Lune de miel, Cavana se souviendra. Me manque terriblement la grosse chaleur de cette ruche en folie qui était la salle de la rédaction. Le travail forcené, les foucades de Choron, la corde raide au-dessus de l'abîme et surtout la cohésion de la bande. Cette merveilleuse entente dans la rigolade cruelle, cette fraternité qui n'avait pas besoin des mots pour s'exprimer, plus fort que tout le monde en était. Harakiri, invraisemblable concentré de haut talent, oui, mais avec Harakiri en plus. Réunis, nous étions davantage qu'une addition. Cette histoire aurait dû logiquement s'arrêter ici. Eh ben, pas du tout. En janvier 1991, un journal apparaît, La Grosse Bertha. La Grosse Bertha apparaît en réaction à l'entrée de la France dans la guerre des États-Unis contre l'Irak. Lorsque Mitterrand jusque-là démurge en carton pâte et tonton marron, ayant réussi à bananer toute la gauche, malgré son passé à la fois pétainiste et colonialiste, Mitterrand fait le paillasson des États-Unis dans une guerre de rapine pour du pétrole. Le journal La Grosse Bertha se fait autour de François Forcadell, spécialiste du dessin d'humour, et de Cabu, l'éditeur, et Jean-Cyril Godefroy. 98 numéros de La Grosse Bertha sont publiés entre 91 et 92. On y trouve GB, Willem, Ciné, mais aussi les nouveaux venus, parmi lesquels Charb ou Tignus. Il y a aussi deux chansonniers vaguement militants dont Cabu fait les affiches, Philippe Val et Patrick Font. Un duo, Font et Val, auteur entre autres d'une chanson antiraciste nommée « Émigrer ».
Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi.
Ouais, on est en droit de préférer les chansons du professeur Choron. La terre est une crotte de nez, que Dieu avait dans son nez.
Il a même une boulette qu'il a jetée au-dessus de sa tête. Tous les anges ont dégueulé, c'est comme ça que la terre est née. Y'a rien de pire.
Philippe Val ne fait pas proprement parler d'humour dans La Grosse Bertha. Il y écrit ce que Choron appelait du journalisme d'état d'âme, des chroniques de cons, où il tartine un point de vue. Mais progressivement, il se montre gourmand et ambitionne la direction du journal, que Godefroy lui refuse au profit d'une rédaction collective. Philippe Val crie alors à la censure et convainc Cabu, puis les autres dessinateurs de le suivre et de faire un autre journal. Lors d'un déjeuner chez Lip, Volinsky suggère à Philippe Val de reprendre pour son nouveau journal le titre de Charlie Hebdo. Quoi ? Volinsky a proposé de reprendre Charlie Hebdo ? Et Cavana et GB vont accepter ça ? Et vont le suivre ? Mais qu'est-ce qui vous a fait ce mec ? Quand, en 1992, après 10 années de silence, il fut question de relever Charlie Hebdo de ses décombres, je voyais cela comme un joyeux prolongement du passé, écrira Cavana dans Lune de Miel. Quelle erreur fut la mienne, et que Choron eut donc raison de m'envoyer faire foutre lorsque je lui proposais de se joindre à nous. En effet, Philippe Val est nul en humour ou en chanson, mais comme Pétain, il est très doué pour bananer les gens et faire croire qu'il est celui dont ils ont besoin. Philippe Val fait alors à l'humour le don de sa personne. Le premier numéro du pseudo Charlie sort le 1er juillet 1992. Ça aurait dû faire un four. Et bien, contre toute attente, ça marche à fond. 125 000 exemplaires vendus. Ce titre, Charlie Hebdo, a quelque chose. Il possède un pouvoir d'attraction étrange. Les ventes retombent assez vite à 60 000 exemplaires, mais ça reste bien. Mieux que La Grosse Bertha, qui, privée de GB, de Cabu, de Willem ou de Ciné, tombe à 12 000 exemplaires et s'arrête en décembre. Choron refuse de participer à cette nouvelle formule. Il ne sent pas Philippe Val et il a raison. C'est ce que répétera sans cesse Cavana.
Je l'ai supplié, je lui ai dit « Mais viens avec nous, viens !»
Il m'a dit « T'es complètement con, tu vois rien. Tu ne vois pas clair, moi je ne vais pas avec ta bande de cons, là. » Choron voyait clair, parce qu'effectivement, il ne fallait pas y aller.
La bande de cons, c'était surtout Val.
Mais Choron va aussi dire qu'il possède le titre de Charlie Hebdo. Ce qui est plus discutable. Choron a trouvé le titre « Charlie » pour le mensuel. Personne ne se souvient qui a trouvé le titre de « Charlie Hebdo ». Il est tombé comme une évidence lors de l'interdiction d'Harakiri Hebdo. Cependant, le 7 mai 1990, c'est-à-dire pas bien longtemps avant la sortie du pseudo « Charlie », Choron a déposé le titre à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Criblé de dettes, il est passé par des hommes de paille pour que le titre ne soit pas saisi. La société Star Spectacle et Création. Quand le pseudo Charlie sort, Star Spectacle et Création l'assigne pour contrefaçon. Et tous les dessinateurs, Cabu, GB, Volinsky, Ciné, rejoints par Delphine de Ton, ont témoigné en faveur de Cavana et lui inventé l'invention du titre. Le titre Charlie Hebdo est récupéré par Cavana après un jugement de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris le 20 janvier 1993. Mais ce ne sera pas Cavana le bénéficiaire. Le bénéficiaire, ce sera Philippe Val. Charlie Hebdo était édité par Choron, mais c'était le journal de Cavana. Et Cavana, en bon chef de chefferie gauloise, en a fait un journal libre, le journal de toute la bande. Le pseudo Charlie deviendra le journal de Philippe Val, c'est-à-dire celui d'un homme qui le soumettra à la mentalité coloniale et impériale. Très vite, Philippe Val César dégage Cavanna Vercingétorix de la page 3 et il y impose son éditorial marqué par une espèce d'esprit de sérieux. Cet esprit de sérieux, il l'expliquera plus tard par le changement d'époque. On est entré dans une autre époque. Je cite Philippe Val. Le Charlie joyeux des 30 glorieuses. Ça commence bien. On dirait une rédaction de lycéens. Marqueur des années d'après 68. Goûteur transgressif des nouvelles libertés. Elles ont quel goût? Pétulant, insouciant, était entré dans une autre époque. Ok, les crises économiques, le chômage, les conflits internationaux contenus à grand-peine, la fin de l'équilibre de la terreur consécutif à l'effondrement du communisme, où l'on voit qu'on n'a pas besoin d'IA pour faire des phrases qui semblent avoir été écrites par un robot, la naissance d'un réseau mondial de communication gratuit. Quoi? Charlie ne peut plus arpenter avec la même désinvolture qu'autrefois. Oh mon Dieu! Le Charlie d'autrefois, qui arpente avec désinvolture, était fait par un homme qui avait perdu par deux fois la femme qu'il aimait, par un autre qui avait mangé de l'homme, par un troisième dont le père avait été tué au revolver et qui était veuf lui-même avec deux filles en bas âge. Ils avaient connu l'occupation et la guerre d'indépendance algérienne. À première vue, ça porterait moins à la désinvolture que la naissance d'un réseau mondial de communication gratuit. Mais je peux me tromper. On se trompe si facilement. Philippe Val va défendre, très mal, des idées de gauche, vite fait, jusqu'en 1999 environ. Année à partir de laquelle il se montre favorable à des bombardements de l'OTAN dans le cadre de la guerre du Kosovo, une des guerres d'ex-Yougoslavie. Son raisonnement est bizarre. Reprenons-le dans le texte. 31 mars 1999... Il est toujours bon de lire Philippe Val dans le texte. Lisons un journal en remplaçant Kosovar par juif. Hein? Pourquoi on ferait ça? Les troupes de Milosevic organisent des pogroms, détruisent les villages, assassinent les hommes et contraignent à l'exode femmes et enfants juifs. Quoi? Les troupes de Milosevic contraignent à l'exode des femmes et des enfants juifs? Non, je suis con, il nous avait dit qu'il fallait remplacer Kosovar par juif. Les troupes de Milosevic contraignent à l'exode des femmes et des enfants kosovars. En quoi c'est moins grave? Au sinistre plutôt Hitler que Blum des années 30, répond, toute proportion gardée, en 1999, le non moins sinistre, plutôt Milosevic que Clinton. Oh là là! Philippe Val a tout whipping, comme diraient les jeunes. Il incarne même ce qu'ils appellent le whipping. La défense ratée d'une cause par suite d'un mélange d'arguments mal compris et associés n'importe comment. C'est Philippe mélange tout, avec toujours une bonne dose de Hitler, parce qu'il ne faut jamais lésiner sur la crème. Et toujours des références aux Juifs. Philippe Val n'est pas juif, mais il aime beaucoup parler des Juifs. Il aime beaucoup, beaucoup parler des Juifs. D'année en année, Philippe mélange tout, devient de plus en plus américanolâtre, et obsédé par Israël. Il va même également développer une espèce de discours de haine, aussi récurrent que débile, contre ce qu'il appelle la « gauche pro-palestinienne ». Ce sera d'ailleurs l'origine d'un certain nombre de licenciements, comme Mona Chollet. Mona Chollet qui a osé contester en réunion un éditorial signé Philippe Val, plus colonialiste que jamais, où il écrivait que les Palestiniens n'étaient pas des gens civilisés. Philippe Val, le civilisateur, va bientôt se flatter d'être l'ennemi de ce qu'il appelle l'antisémitisme caché de la gauche pro-palestinienne. Le mot important est « caché ». Il n'attaque pas des antisémites avérés. Pourtant, il y en a, mais ça ne l'intéresse pas. Philippe Val s'intéresse aux antisémites cachés. Il devient donc un spécialiste du procès d'intention. Je cite Philippe Val dans le texte. Les Palestiniens ne sont qu'un prétexte pour la plupart de ces gros connards qui, en réalité, dépensent toute leur énergie, non en amour des Palestiniens, mais en haine des Juifs, de l'Amérique et de la démocratie en général. Ouah ! Et puis, il y aura la fameuse affaire des caricatures de Mahomet. Là-dessus, on peut dire que Philippe Val a été à l'avant-garde de quelque chose. Il a joué un rôle notable dans l'histoire récente. Un rôle funeste, mais notable. Redéplions. C'est affreux, je suis d'accord, mais c'est important. Tout commence à la mort du cinéaste et chroniqueur hollandais Theo van Gogh. Theo van Gogh a commencé sa carrière en multipliant les provocations antisémites, les blagues négationnistes sur la Shoah. Il a ensuite changé de cible pour s'attaquer aux Arabes, qu'il traite de baiseurs de chèvres. C'est ce genre de mec qui dit ce genre de truc, une sorte de fanatique anti-religieux. Theo van Gogh est assassiné en 2004 par un islamiste. Il devient un martyr. Pour lui rendre hommage, le journal danois Jyllands-Posten lance un concours de représentation de Mahomet et publie 12 caricatures, comme celle de Mahomet avec une bombe dans le turban, qui vaudra à son auteur, Kurt Westergaard, d'être l'invité vedette d'un congrès du Parti populaire danois. Parti d'extrême droite, qui défend la monarchie et l'Église chrétienne et considère le combat contre l'immigration comme son combat prioritaire. Ok, sous l'impulsion de Philippe Wahl, le pseudo Charlie republie les caricatures le 8 février 2006, avec la fameuse couverture de Cabu qui montre Mahomet, débordé par les intégristes, qui pleure. C'est dur d'être aimé par des cons. Et votre Kurt Westergaard, il est aimé par des gens intelligents. À la suite de la publication des caricatures, qui a considérablement boosté ses ventes, Charlie Hebdo est poursuivi par l'Union des organisations islamiques de France et par la Grande Mosquée de Paris, pour injure publique d'un groupe de personnes à raison de leur religion. Charlie Hebdo gagne son procès, procès durant lequel Nicolas Sarkozy, premier flic de France et futur président, leur écrit dans une lettre de soutien « Je préfère un excès de caricature à un excès de censure ». Une des conséquences de l'affaire des caricatures est d'ailleurs une espèce de hype autour de Sarkozy, devenu à la fois super flic et héros de la liberté d'expression. Sarkozy est élu président en 2007. Il va faire re-rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN, ce qui lui permet de reprendre un rôle de supplétif des Américains dans leur guerre coloniale au Moyen-Orient.
Et je suis venu vous dire qu'on peut être l'ami de l'Amérique et gagner les élections en France.
Mais la conséquence principale, c'est la mise en danger de la rédaction de Charlie Hebdo. Theo van Gogh nous l'a montré. On peut être un fanatique et mourir assassiné par un autre fanatique. Est-ce un bon combat ? Les talents d'hypnotiseur de Philippe Wahl vont lui permettre de faire croire à une équipe majoritairement de gauche que la critique de la religion musulmane est non seulement un bon combat, mais qu'il doit désormais être leur combat. Et ce, même si la critique de la religion musulmane dans Charlie Hebdo se distingue parfois difficilement du racisme et s'inscrit de plus en plus dans une logique de guerre des civilisations proche de celle des néoconservateurs et de George W. Bush. Ainsi, Charlie Hebdo publie un article signé Robert Misrahi qui fait l'éloge du pamphlet « La rage et l'orgueil » de la journaliste italienne Oriana Fallaci, pamphlet raciste, dans lequel Fallaci dit que les fils d'Allah se multiplient comme des rats, ainsi que des choses délicates comme « Il y a quelque chose dans les hommes arabes qui dégoûte les femmes de bon goût ». Oui, c'est de ce niveau, et c'est ce livre « Bête à manger du foin » qui est défendu dans Charlie en 2002 par Misrahi. 3 ans plus tard, le 5 janvier 2005, Philippe Wahl, qui n'aime pas le Quai d'Orsay, rédige pour Charlie un éditorial où il explique que la politique arabe de la France a des racines profondes qui s'enfoncent jusqu'au régime de Vichy, dont la politique anti-juive était déjà, par défaut, une politique arabe. Philippe mélange tout, a tout mélangé, mais à un point alors encore jamais vu sur la Terre, et puis devenu soudain un émule d'Ossarès ou de Bijar, il mélange également les attentats du FLN pour la libération de l'Algérie colonisée et ceux d'Al-Qaïda. Ben Laden a repris à son compte le terrorisme aveugle et suicidaire, dit alors Philippe Wahl à la télévision. Ça commence à se théoriser et se formaliser pendant la guerre d'Algérie. Il y a un arc
qui va de l'attentat du Milbar jusqu'à Ben Laden.
Philippe, c'est ça le début de ton arc ? Sauf si tu estimes que la mort des Arabes, ça ne compte pour rien. Parler des attentats des indépendantistes algériens durant la bataille d'Alger pour la libération de leur pays comme d'un terrorisme aveugle et suicidaire, c'est seulement l'expression de ton racisme. De ton racisme et de ton colonialisme. D'ailleurs, il y avait un anticolonialiste dans les colonnes de ton journal, Philippe. Tu vas le licencier en juillet 2008. Tu te souviens ? il s'appelait Ciné. Ciné va être licencié à la suite d'une chronique où il citait un article où on apprenait que le fils de Sarkozy, Jean, voulait se convertir au judaïsme pour épouser l'héritière de la famille Darty. Il ira loin, ce petit, avait commenté Ciné. Ciné est alors accusé d'antisémitisme. Pour cette remarque, il ira loin, ce petit. Et Philippe Val est alors soutenu dans sa décision de virer Ciné de Charlie Hebdo par Bernard-Henri Lévy, qui s'attaque alors à Ciné dans une tribune publiée dans Le Monde le 21 juillet 2008 et nommée « De quoi Ciné est-il le nom ?» Et si cette volonté de rire de tout, écrit Bernard-Henri Lévy, sans entrave, tranquillement, exprimait juste la nostalgie du bon vieux temps de la blague à l'ancienne, bien grasse, bien salace, quand personne ne venait vous chercher noise si l'envie vous prenait de vous lâcher contre les ratons, les youpins, les pédés, les femmes. Bernard, c'est à Ciné que tu penses ? Quand tu parles de la nostalgie du bon vieux temps où on se lâchait contre les ratons ? Tu parles du dessinateur qui apportait des polars à Ben Bella en prison ? Tu parles de ce soutien historique du FLN, de l'ami de Malcolm X, qui a passé sa vie à dessiner rageusement des flics ? Il aurait selon toi la nostalgie du bon vieux temps où on pouvait se lâcher contre les ratons et contre les youpins. Tu parles d'un homme dont la fille est juive. Tu parles d'un homme qui voulait casser la gueule aux journalistes de Minute dans l'émission Droit de réponse. Mon pauvre Bernard, j'ai l'impression que Philippe Val ne t'a pas donné toutes les pièces du dossier avant que tu ne commences à t'exciter tout seul pour lui dans ton article. Faut dire que Bernard-Henri Lévy n'est pas un grand lecteur de Charlie Hebdo. Du tout. Personnalité médiatique omniprésente depuis 1977, le 1er novembre 1978, dans le Matin de Paris, il déclarait alors que l'antisémitisme était présent en France, discret et familier, à rôder dans une couverture de Charlie Hebdo. Oula ! L'antisémitisme dans une couverture de Charlie Hebdo en 1978 ? Cavana répondra par un article, le 9 novembre, nommé « C'est triste de perdre son temps à répondre à des conneries ». Et peut-être que la couverture hilarante de Volinsky du 2 novembre y répondait déjà. Enfin, on peut le dire, Hitler, super sympa, Bernard-Henri Lévy. L'influence délétère du lamentable Bernard-Henri Lévy sur le monde journalistique et politique fut repérée dès la fin des années 70 par au moins trois penseurs, Gilles Deleuze, Jacques Derrida et Pierre Vidal-Naquet. Gilles Deleuze écrira un article dans la revue Minuit en mai 1977, pour se moquer des nouveaux philosophes. Nouveaux philosophes, c'est le nom que Bernard-Henri Lévy et ses amis Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut ou André Glucksmann se sont donnés. Nouveaux philosophes, chez qui les livres existent seulement en vue de la couverture du magazine qui en parlera. Jacques Derrida dira très simplement de Bernard-Henri Lévy « Il se sert des causes plutôt qu'il ne les sert ». Mais Pierre Vidal-Naquet, lui, publia dans le Nouvel Observateur du 18 juin 1979 une petite liste d'erreurs factuelles contenues dans le dernier livre de Bernard-Henri Lévy et repérable dès la première lecture. Je cite Vidal-Naquet. Il suffit en effet de jeter un rapide coup d'œil sur ce livre pour s'apercevoir que loin d'être un ouvrage majeur de philosophie politique, il fourmille littéralement d'erreurs grossières, d'à peu près, de citations fausses, d'affirmations délirantes. J'estimais avoir tué BHL, dira beaucoup plus tard Pierre Vidal-Naquet. Je ne l'ai pas tué. Je considère que j'ai été battu. Pour moi, c'est une défaite. En effet, ça n'a servi strictement à rien. BHL n'en est pas sorti affaibli. BHL n'en a rien eu à foutre. Il a continué pendant plus d'un demi-siècle à faire ce qu'il faisait déjà à la fin des années 70, se contrefoutre des faits et instrumentaliser des causes pour sa propre gloire. En particulier une cause. La lutte contre l'antisémitisme. L'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. BHL va la pratiquer sans discontinuer pendant plus de 40 ans. Il va le faire de la façon la plus laide pour les victimes d'antisémitisme, de la façon la moins respectueuse. BHL va mettre la lutte contre l'antisémitisme au service de la défense de la politique d'Israël ou des États-Unis, bien sûr, mais aussi au service de Sarkozy, lorsque ce dernier est critiqué, au service de DSK, lors de son procès pour viol. Enfin, surtout au service de sa classe sociale, la grande bourgeoisie. Sans honte, BHL verra de l'antisémitisme jusque chez les Gilets jaunes. « Gilets jaunes », clame-t-il dans sa pièce « Looking for Europe », qui ne pense qu'à casser du flic, du juif et du pédé. Quoi ? mais sinon et surtout à travers les textes de Leschbott. Bernard-Henri Lévy va mettre la lutte contre l'antisémitisme au service de sa propre cause, au service de lui-même. Ainsi, dans sa propre revue, La Règle du Jeu, Bernard-Henri Lévy publie l'article d'un certain Laurent Dispo, qui développe la thèse suivante, critiquer Bernard-Henri Lévy serait en fait de l'antisémitisme. Je cite Laurent Dispo, son motif moteur est le vieil énoncé de la France juive d'Édouard Drumont. Une thèse que reprendra Philippe Val dans une tribune publiée cette fois dans L'Express, de quoi la haine de Bernard-Henri Lévy est-elle le nom ? Bernard-Henri Lévy, nous y explique alors Philippe Val, est juif. Le fait que Bernard-Henri Lévy soit juif est tellement important pour Philippe Val que c'est à peu près la seule chose qu'il en dit dans « Tu finiras clochard comme ton Zola », une autobiographie écrite, mise à part son titre, à la troisième personne, comme la guerre des Gaules de César. Et pour les mêmes raisons que César, faire sa propagande. Le livre enchaîne les situations à la gloire de Philippe. Il raconte à quel point des gens célèbres et admirables l'admirent, lui, Philippe. Il en cite même certains, mais tous morts, et pour des propos tenus en privé. Ce livre est ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent une dinguerie ou une singerie. Je dirais que ce livre est une césarerie. Je cite le passage concernant son ami Bernard. Le journaliste lui demanda ce qu'il pensait de Bernard-Henri Lévy. Philippe répondit « Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il est normal que les positions d'un intellectuel soient critiquées par d'autres intellectuels. En revanche, je pense que les campagnes de haine dont il fait l'objet sont suspectes. Qu'importe ses paroles et ses actes, avec lesquels je suis d'ailleurs souvent en accord, il est évident que c'est ce qu'il est qui est visé. Et ça me dégoûte. » Le journaliste avait résumé ça à peu près fidèlement et cela valut à Philippe des courriers d'insultes ingénument antisémites. Quelques jours plus tard, BHL, intrigué par ce soutien imprévu, invita Philippe à boire le café chez lui. Dès le premier croissant, ils se découvrirent une sympathie réciproque. « Quelle est ton histoire ? D'où tu viens pour en être arrivé là ? Quel a été ton déclic ?» Sans réfléchir une seconde, Philippe eut lui-même la surprise de s'entendre répondre « Zola, dans l'affaire Dreyfus. » « Arrête, tu m'excites. Drumont, la France juive, l'affaire Dreyfus. Ok les mecs, j'ai compris l'idée, mais il y a un problème. » Pour Drumont, la raison pour laquelle on doit se méfier d'une personne d'origine juive, ce n'est pas le fait que ses livres soient remplis, comme dit Vidal Maquet des livres de Bernard, d'erreurs grossières, d'à peu près, de citations fausses ou d'affirmations délirantes. Ceux de Drumont le sont aussi. Ni, comme dirait Derrida, qu'il se serve de causes qu'il défend plutôt qu'il ne les serve. Drumont faisait pareil. Pour Drumont, la raison pour laquelle on doit se méfier d'une personne juive, c'est qu'elle est juive, il n'a pas besoin de plus. Or pardon, mais ni Pierre Vidal-Naquet, ni Jacques Derrida, ni Gilles Deleuze, pour prendre trois exemples qui nous viennent du tout début de la carrière de Bernard, ne reprochent à Bernard d'être juif. Il lui reproche des choses très concrètes. Ceux qui utilisent le vieil énoncé de Drumont comme motif moteur de leur réflexion pour parler comme Laurent Dispo, ou pour parler comme Philippe Val, qui vise ce qu'il est, qu'importe ses paroles et ses actes. Ce ne sont pas ceux qui attaquent Bernard, ce sont ceux qui le défendent. Ce sont vous deux, Laurent et Philippe. Retournons à l'affaire Ciné, parce que la suite est exemplaire. Ciné, 80 balais, ne se laisse pas faire. Il répond, il est soutenu publiquement par un paquet de monde, Edgar Morin, Gisèle Halimi, etc., et fait un hebdo à son tour. Dès la sortie de Ciné Hebdo, il siphonne les ventes de Charlie, qui perd 30 000 lecteurs d'un coup. La LICRA intente un procès à Ciné, que Ciné gagne. Puis Ciné gagne son procès contre Charlie, condamné à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive. Charlie fait appel, deuxième jugement, deuxième victoire de Ciné, et cette fois-ci, Charlie doit payer le double. Non seulement Charlie doit payer le double, Charlie doit publier un bandeau occupant 15 cm de sa couverture, presque la moitié de celle-ci, l'obligeant à reconnaître son licenciement abusif. Philippe Val s'en fout, il est déjà parti. Il dirige désormais France Inter. Mais le dessinateur Charb et les autres qui n'ont pas défendu Ciné et sont restés à Charlie sont tellement dégoûtés par l'argent qu'ils perdent qu'ils le reprochent à Ciné. Un comble, confère une couverture de Charb pleine d'aigreur. Bonne année Ciné et surtout la santé avec la tête de ciné patibulaire avec un respirateur et un personnage derrière. Arrête, il va nous faire un procès. Charb, ancien adorateur et ami de ciné, mais qui ne l'a pas défendu lorsqu'il a été viré et qui est désormais rédacteur en chef de Charlie Hebdo et d'Elfeuille de Ton, ayant pris très au sérieux la défense de ciné et rejoint Ciné Hebdo, y écrit « Ma véritable histoire d'Arakiri Hebdo ». Je cite Delphine de Ton. Il aura fallu qu'un type s'imagine qu'il pouvait se débarrasser d'un ciné coupable à 80 ans d'être resté fidèle aux idéaux de sa jeunesse et de sa maturité, quand lui-même les a tous reniés, pour que Ciné, chassé de ce qui se prétend l'héritier de Arakiri Hebdo, crée à son tour Ciné Hebdo, le porte au succès, dérange le confort de ce type et des couards de son équipe, qui savait parfaitement à quoi s'en tenir sur les accusations portées contre Ciné, mais qui, à part une infime poignée, les ont avalisées par leur silence. Il aura fallu que le type, définitivement ridiculisé en plus par l'acquittement de Ciné en justice, ce Ciné dont lui et ses amis ont tout fait pour obtenir qu'un tribunal le déshonore, j'y viens, j'y arrive, à la fin de ma phrase, vas-y mon gars, Proust, Proust, il aura fallu cette affaire Val-Ciné, commencée voilà 8 mois et conclue aujourd'hui par la déconvenue du premier et la victoire du second, pour que j'entreprenne de raconter mes souvenirs du seul et authentique Charlie et de l'hebdo, comme nous l'avons toujours appelé entre nous, les fondateurs. En 2011, alors que Philippe Val est parti depuis 2 ans, Charb remet le couvert. Il sort un numéro rebaptisé « Charia Hebdo ». La veille de la sortie, les locaux du journal sont détruits par un cocktail Molotov. Attentat jamais revendiqué, coupable jamais retrouvé. Mais ça devrait faire réfléchir. Faut-il vraiment risquer de mourir pour ce sinistre combat? C'est hélas l'opinion de Charb, nouveau rédacteur en chef, désormais sous protection policière, qui renchérit. Charb, qui disait dans des images volées par Pierre Carl et diffusées en 2008, « Val est atypique dans Charlie Hebdo. C'est lui le directeur et c'est lui qui ressemble le moins au journal. Si j'étais directeur d'un journal... » Une fois que Charb en est devenu le directeur, non seulement le journal se met encore plus à ressembler à Philippe Val, mais lui-même Charb n'est plus le même. Il devient à son tour un obsessionnel de la laïcité, un fanatique, un soldat. Ses dessins ne parlent plus que des barbus. Il publie même une vie de Mahomet avec Zineb El Razaoui. Même son dernier dessin, en janvier 2015, est une caricature de djihadiste. Toujours pas d'attentat en France. Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux. Et puis, dans les colonnes du Monde, il déclare « C'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. » Ben, ça n'a pas loupé. Le 7 janvier 2015, à 11h30, deux frères, armés de Kalachnikov, entrent dans la rédaction et tuent 11 personnes, dont Charb et 4 autres dessinateurs, Cabu, Volinsky, Honoré et Tignous. Ils revendiquent avoir fait cet attentat pour Al-Qaïda Yémen et sont tués par le GIGN vers 17h. Sous le choc des dessinateurs assassinés, les Français se découvrent une identité. Ils sont Charlie, un journal qu'ils ne lisaient plus, mais peu importe. « Je suis Charlie », ce slogan absurde qui ne veut rien dire, quasiment du De Gaulle.
« Je vous ai compris !»
est affiché partout, dans les rues, sur les façades, les kiosques. Il est tenu dans les mains de manifestants, le dimanche 15 janvier 2015. 1,5 million de manifestants, derrière une rangée de chefs d'État, parmi lesquels Angela Merkel, Matteo Renzi, Ibrahim Boubacar Keïta, Benjamin Netanyahou, François Hollande, sur qui un pigeon chie devant tout le monde, et Sarkozy, qui n'est plus président, mais joue des coudes pour se retrouver quand même au premier rang. Le premier ministre d'alors, Manuel Valls, encore une gueule d'empereur romain, fait plusieurs discours, dont certains qu'il va plus tard réunir dans un livre, l'exigence. Il va développer principalement une idée, celle du refus de l'explication. Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille.
Qu'à expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser.
La vache, une vraie phrase de militaire. Expliquer l'attentat. Si la question est de savoir si cet attentat était justifié ou non, la réponse est non. Évidemment, faut vraiment être con. Mais si la question est de savoir si cet attentat était prévisible, ben la réponse est oui, il l'était. Depuis presque 15 ans, Philippe Val avait instrumentalisé l'esprit de Charlie Hebdo en s'attaquant non pas à la religion musulmane, comme on nous l'a dit et répété, mais aux Arabes. Rien que le fait d'appeler la politique antisémite de Pétain une politique arabe, rien que le fait d'applaudir un livre qui dit que les femmes de bon goût éprouvent du dégoût devant les hommes arabes. En quoi cela peut être considéré comme de la critique de la religion ? Arabe, c'est une religion ? On peut pleurer les victimes de l'attentat sans glorifier la cause dont ils ont été, pour la plupart d'entre eux, les martyrs ou les symboles, bien malgré eux. Relancer Charlie Hebdo dans les années 90 n'était pas une erreur. C'était beaucoup plus. Et c'était bien pire que cela. C'était ouvrir la voie à une instrumentalisation encore inédite. Se servir de l'esprit libertaire des années 60 pour arriver à la décomplexion du racisme le plus crasse.
Oui, je vous raconte une blague.
C'était le détournement de l'utopie gauloise de Cavanna pour les visées impérialistes et néoconservatrices de Philippe Valcésar. Encore une fois, cette histoire pourrait enfin s'arrêter là. Mais non. Encore une fois, ça ne s'arrête pas là. D'une certaine façon, cette histoire n'a pas encore commencé. Alors, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Alors ici, on est dans la cour des bâtiments de la rue des Trois Portes. C'est là où il y a eu les plus grands locaux de Harakiri et du Charlie Hebdo initial. Dans un premier temps, il y a eu la rue Choron, c'est là d'où le professeur Choron a émergé, puisque le professeur Choron, c'est quasiment une création collective. Il est apparu, il s'est extrait de Georges Bernier, dit Georges Bernier, qui était le directeur, mais à un niveau légal, et qui a endossé le rôle de l'esprit Harakiri, qui est devenu le visage d'Harakiri. Après la seconde interdiction, ils étaient rue Montholon. Rue Montholon, c'était 50 mètres carrés, c'était minuscule. Ils étaient tous là-dedans, dans cette petite pièce à tout faire. Et quand le journal a commencé à gagner de l'argent, Choron a acheté des locaux gigantesques. Il a acheté 500 mètres carrés, rue des Trois Portes. Et c'était tout ça. C'était tout ça. Plus ses bureaux de l'autre côté. Et Cavanna a pris aussi des bureaux, ici, qui sont devenus son pied-à-terre et qui restaient son pied-à-terre après la fin du journal, après la fin des éditions du Square. Et Cavanna, jusqu'à la fin de sa vie, passait la moitié de la semaine dans ce pied-à-terre, ici, tandis que Choron, quand il a manqué d'argent, a fini par louer une cave en dessous de ses locaux, a loué une cave et a fini par vivre lui aussi la moitié de la semaine dans cette cave. À ce moment-là, Cavanna et Choron étaient fâchés autour de l'histoire du titre de Charlie Hebdo, de Philippe Val, de la reprise de Charlie Hebdo, etc., du fait que Choron n'ait pas voulu suivre, qu'il avait senti que Val était un salopard, Cavanna ne l'a pas senti, s'en est rendu compte trop tard, etc. Il n'empêche que ces deux hommes qui s'étaient à ce moment-là, qui s'étaient tant aimés, qui avaient créé ensemble vraiment l'humour bête et méchant, l'esprit Harakiri, et qui avaient aggloméré autour d'eux tant de génies, les plus grands génies de leur époque, pour créer vraiment peut-être une des plus grandes choses qui s'est créée sur ce territoire, quoi. Harakiri, vraiment quelque chose d'aussi grand que Rabelais. Pour ça, ces deux hommes, sans qui tout ça n'aurait pas eu lieu, ont fini par, malgré tout, leurs dernières années de leur vie, ils les ont vécues face à face, parce que, même morceau de semaine, Cavanna était toujours dans son ancien bureau pied-à-terre, et Choron était dans les caves de la rue des Trois Portes. Donc ce lieu est chargé. Ce lieu est chargé de tout ce qui a été inventé ici, de tout ce qui a été vécu ici, et surtout de la puissance d'esprit de ces êtres qui étaient uniques. Cavanna, Choron, Reiser, Volinsky, etc., etc., etc. Cet épisode est un peu particulier parce que c'est l'avant-dernier épisode de L'Empire n'a jamais pris fin. C'est le dernier avant l'été et il nous en reste plus qu'un après. Il est un peu particulier aussi parce qu'il est autour de Harakiri et qu'en fait, c'est autour d'Harakiri, c'est autour de Cavanna et d'Harakiri que j'ai rencontré le chef de Blast, Denis Robert. C'est-à-dire que Denis Robert et moi, on s'est vus pour la première fois aux funérailles de Cavanna. On s'est vus aux funérailles de Cavanna et Denis était en train de préparer un documentaire sur Cavanna. Jusqu'à la dernière seconde, j'écrirai. Et se voyant au Père Lachaise, il m'a dit « il faut qu'on se parle dans la semaine, etc. » On s'est parlé, et du coup, lorsqu'il a créé Blast, il m'a proposé d'en faire partie. Donc, c'est ce qui fait aussi la particularité de mon rapport à Blast et la particularité dans L'Empire n'a jamais pris fin, de la façon dont, depuis le premier épisode, la référence à Cavanna et la référence à Arakiri étaient présentes. Vercingétorix et César, bien évident que Cavanna, qu'on avait toujours dans sa vie comparé à Vercingétorix, lui-même joue de cette identification dans ses romans autobiographiques, qui sont les plus beaux livres de Cavanna. Hein. Les Rital, les Ruskoff, Bête et méchant, Les yeux plus grands que le ventre, Maria. Il se moque de lui-même et de la référence à Vercingétorix qui lui est associée. C'est quelque chose qu'il connaissait parfaitement et avec lequel il pouvait jouer et dont il a, comment dire, consciemment ou inconsciemment, le rapport de Cavanna à l'histoire est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, qui a beaucoup influencé cette série aussi. C'est-à-dire que c'est dans un livre de Cavanna, « Nos ancêtres les Gaulois », qui est une phrase clé qu'on disait à l'école, « Nos ancêtres les Gaulois », etc., que j'ai trouvé déjà des phrases sur les Romains qui ont rythmé le premier épisode de « L'Empire n'a jamais pris fin ». Puis j'ai convoqué Cavanna à chaque fois que j'ai pu, parce que je savais, dans ma tête, il y avait l'idée qu'à un moment, on arriverait à cet épisode où on confronterait le harakiri initial de, comment dire, la déformation qui a été opérée ensuite avec Charlie Hebdo et donc ce qui est devenu Charlie en termes d'incarnation, on va dire, d'une forme de critique de la religion qui se distingue mal du racisme. Harakiri, c'est une proposition d'humour d'une extrême violence. C'est l'idée d'un humour qui n'épargne rien. Mais en fait, en épargnant rien, Harakiri nous met tous à égalité. C'est-à-dire que c'est un journal qui a été créé par des personnes qui en avaient bavé. C'était pas des gens si jeunes. Hein, quand même, Cavanna, il a 37 ans quand il commence à Harakiri. Choron, il en a 31 ou 32. Les autres sont plus jeunes. GB, il est pas plus jeune. Et simplement, les types qui le créent, etc., ils en ont déjà bavé. Ils ont déjà traversé la guerre. Ils sont pas encore sortis de la guerre d'indépendance algérienne. Ils sont dans une France qui a connu Pétain et dont l'après-guerre ressemble terriblement à ce qu'ils ont connu pendant la guerre. C'est-à-dire, c'est une continuation du pétainisme par d'autres moyens. C'est un pétainisme soft, la France de l'après-guerre, avec tout le même idée moralisatrice, pleine de jugements, avec des désirs de censure qu'elle n'assume pas comme telle, mais qu'elle va faire passer par la bande, à travers l'interdiction à l'affichage, la démoralisation de la jeunesse, tous ces concepts fumeux, ces trucs vagues qui leur permettent d'interdire ce qu'ils veulent. Et ils vont devoir affronter ces interdictions, ils vont devoir affronter des jours de vaches enragées, comme on dit, et ils vont avoir un succès fou, parce qu'ils vont rencontrer l'époque un peu plus tard. Ils vont rencontrer la jeunesse qui a fait 68. C'est ça qu'ils vont rencontrer. Et donc, ils vont devenir le journal phare des années 70, Charlie Hebdo, et en arrière-plan, Harakiri, qui est le poumon, qui est vraiment la respiration du truc. C'est cet esprit libertaire, vraiment au sens le plus général et le plus complet, le plus englobant possible. Une gauche non militante, vraiment l'esprit non militant. Et dans une période pleine de militantisme, c'est ce qui permet aussi l'articulation des différents combats également. C'est ce qui permet aussi qu'aucun d'entre eux ne soit pris comme un absolu, mais se comprenne par rapport aux autres. Et donc, toute cette vision-là, qui est développée à travers Harakiri et Charlie Hebdo, c'est une vision qui est très utopique et qui est pleine de promesses, qui va se prendre d'abord dans la gueule son obsolescence lors de la victoire de Mitterrand. C'est-à-dire qu'en gros, la victoire de Mitterrand, les gens vont dire « bon, bah, ça y est, on a gagné, donc on n'a plus besoin de ça ». Maintenant, on rentre dans les années 80, pratique. On n'est plus chez les rêveurs. Et 10 ans plus tard, le journal va être repris, mais repris dans une toute autre direction, une direction qui, elle, va utiliser cet esprit libertaire, mais dans un but raciste, de ségrégation, et pour pouvoir, comment dire, accabler une partie de la population. Et aussi pour pouvoir dépolitiser d'une certaine façon, parce que c'est ce qui permet également de faire passer les combats économiques, les combats sociaux au deuxième plan. On va dire, nous, on se bat pour la civilisation, pour une idée de la civilisation. On revient à Jules Ferry, on revient chez les cons, on revient à la pire gauche du monde, vraiment la gauche des salopards, la gauche des colons. Fondamentalement, l'esprit néoconservateur à la française, un néoconservatisme à la française, qui sert d'articulation entre, on va dire, une gauche molle républicaniste et une extrême droite dure qui s'ignore de moins en moins, cette espèce d'espace intermédiaire dans lequel on va créer les éléments constitutifs d'une possible guerre de civilisation ou un choc de civilisation, vont utiliser ce qu'il pouvait y avoir de plus libérateur dans l'esprit de l'époque qui a juste précédé comme artefact et comme élément de décor pour un combat qui n'était pas du tout le leur. Et donc, c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Je l'appelle « Notre avant-dernière guerre » parce qu'il me semble bien que tout cela est, d'une certaine façon, le détour qu'a pris la grande bourgeoisie pour ne pas avoir à affronter directement sa guerre initiale, sa guerre finale, qui est toujours la guerre entre les riches et les pauvres. Celle-ci, Robespierre nous l'a dit, Babeuf nous l'a dit, Eugène Varlin nous l'a dit, on n'y échappe pas. Et celle-là, Macron ne va pas y échapper. Les livres. C'est tellement long à chaque fois ce que je fais. L'histoire de Harakiri a été racontée par les acteurs de Harakiri. Et il y a au moins 3 livres qui sont Harakiri, racontés par Harakiri, racontés par les principaux membres du journal. Il y a Bête et méchant de Kavanagh, qui est le premier livre, finalement, qui raconte Harakiri. Il raconte pas que ça, il raconte l'après-guerre de Kavanagh, mais il y a une énorme partie qui est Harakiri, racontée par Kavanagh, et c'est Kavanagh qui le raconte. Ce qu'il raconte pas, et ce qu'il faut aussi raconter, avant, pendant, après, c'est raconté par Choron. J'ai pris la réédition pour Choron. Alors, l'autobiographie de Choron s'appelle « Vous me croirez si vous voulez ». En effet, quand on lit son histoire en Indochine, on a du mal à le croire. L'homme qui a mangé de l'homme, quoi. Qui a mangé du foie et du cœur des ennemis des Nungs. Mais Choron, je pense, globalement, raconte très honnêtement son histoire dans Vous me croirez si vous voulez, et son histoire se mêle vraiment à celle de Harakiri. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un pendant, il y a à peine un après. L'après Harakiri reste Harakiri pour Choron. Il n'a pas quitté l'esprit Harakiri. Et donc, ce livre écrit vers la fin de la vie de Choron avec Jean-Marie Gouriot, qui le met en forme, est aussi un document exceptionnel. Et là, c'est la réédition par Wombat. Mais ils ont réédité du Delfeuille de Thon, du Topor, du GB, ils ont réédité du Choron. Autre point, Kavanagh n'a pas écrit sur Harakiri que dans Bête et méchant. Dans ses deux derniers livres aussi, Lune de miel et Rêve du con, il y a des séquences aussi de souvenirs liés à Harakiri. Et parce que ce soit Choron, que ce soit Kavanagh, et que ce soit aussi Delfeuille de Thon, troisième livre, rien de plus beau que leurs souvenirs d'Harakiri. Voilà, ici Harakiri. Chose étrange, après la mort de Choron, quelqu'un a dessiné à travers la vitre, avec le doigt, Choron, avec les mots « Choron me manque ». C'était après la mort de Choron, mais c'était bien avant la mort de Kavanagh. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu bien souvent après la mort de Choron. Et quelques jours seulement après la mort de Kavanagh, je me demande si ce n'est pas le lendemain de la mort de Kavanagh, je suis passé dans cette rue. Et il y avait un Kavanagh qui avait été ajouté. « Je t'aime, Kavanagh ». Par la même personne, sans doute. À travers la même fenêtre, une fenêtre sale, qui permettait avec ce doigt de faire un dessin qui allait rester, pour ce qui est celui de Choron, une dizaine d'années. Pour celui de Kavanagh, déjà lui aussi, plus d'une dizaine d'années. Et ça, c'est inouï. C'est vraiment particulier à ce lieu. Ils gardent leur mémoire, mais on le sent, hein, qu'ils gardent leur mémoire très très fortement. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Harakiri. Harakiri est une des deux révolutions les plus importantes de notre histoire, avec ce qu'on a appelé improprement le gnosticisme, les 100 rois. Les 100 rois ont révolutionné notre perception éthique du monde spirituel, par l'esprit, par une pensée anarchiste appliquée au cosmos. Harakiri a révolutionné notre perception esthétique du monde matériel, par le rire, par ce rire cruel sur une vie cruelle. Entre les deux, il n'y a guère qu'un nom qu'on peut inscrire entre les 100 rois et Harakiri, et ce nom, c'est celui d'Alfred Jarry, l'auteur du Burois, de Messaline, du Surmal, l'inventeur de la pataphysique. Alfred Jarry a révolutionné notre perception scientifique du monde imaginaire par la pataphysique, la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. La pataphysique étudie les lois qui régissent les exceptions et explique l'univers supplémentaire à celui-ci. Les surréalistes adoreront Jarry, à juste titre. Mais ils ne seront pas aussi forts que lui. C'est pas évident d'être aussi fort que lui. Au XXe siècle, on verra deux artistes hisser leur humour à une ambition scientifique comparable à celle de Jarry. Deux artistes. Et l'un d'entre eux était dans Harakiri. C'est GB. Et l'autre, c'est Frank Zappa, bien sûr. Harakiri. Harakiri a été la révolution, dont le pseudo-Charlie a été la contre-révolution, comme Jésus et l'Église, ou comme la Révolution française et Napoléon. Mais Harakiri a abrité une révolution à l'intérieur de la révolution. Une révolution encore à venir. Cette révolution, c'est l'an 01 de GB. Et c'est son slogan, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Georges Blondeau dit GB, plus grand dessinateur et poète des 100 dernières années. Né le 9 juillet 1929 à Villeneuve-Saint-Georges. Mort le 4 avril 2004 à Chancueil dans l'Essonne. GB, dessinateur industriel à la SNCF en 1947, il devient dessinateur humoristique pour La Vie du Rail entre 1951 et 1960. Puis il décide, en 1960, de quitter la SNCF et La Vie du Rail pour rejoindre Harakiri. Il quitte les rails du monde. Il déraille. À partir de cet instant décisif, GB soumet un savoir-faire géométrique, scientifique et technique à une pratique générale de déraillement de chaque détail du monde. Chaque détail sur lequel GB pose les yeux est susceptible de basculer dans le chaos, la folie, la métamorphose. Mais c'est une bascule précise. Et pour séparer sa révolution des notions historiques de progrès et de réaction, GB invente une formule géographique, celle du pas de côté. Faire le pas de côté. Et cette pratique répétée du pas de côté par GB va finir par donner corps à l'an 01 sur plusieurs années et dans plusieurs domaines. Qu'est-ce que l'an 01? Le moment où on a tout arrêté, on a réfléchi et c'était pas triste. On voit un couple qui fait sonner le réveil à 5 heures du matin en souvenir des jours où ils allaient travailler. « Lève-toi, ton train !» Tu vas être en retard pour ton train. Je ne m'en lasserai jamais. On voit un homme sur une route dire à un passant sur un pont « J'ai fait un rêve extraordinaire. Je vais le raconter à la radio. Je viens avec vous. » Et puis cette image. Moi qui te parle, j'ai vu un matin sur un quai de gare, un type dans la foule. Le train est arrivé. Le type n'est pas monté. Puis j'en ai vu 2, 3, 10, 100. C'est ça l'an 01. Le moment où on quitte le train-train du monde. L'instant où on fait ce pas de côté qui ouvre d'autres possibilités de vie pour soi et pour les autres. C'est l'après 68. Mais c'est l'après 68 tel qu'il n'a pas eu lieu. Pas encore. Dès le début des années 70, l'an 01 va faire l'objet d'une page hebdomadaire dans Charlie Hebdo. C'est une bande dessinée. Et c'est une bande dessinée qui devient rapidement le storyboard d'un film auquel les lecteurs sont invités à participer. L'an 01, un film à faire ensemble, un vrai film, avec des acteurs professionnels ou non, et des cinéastes qui s'y collent. Jacques Doyon, Jean Rouch, Alain René. Dans l'an 01, on jette les clés de sa maison par la fenêtre, on ouvre les prisons, on part sur les routes. Écologie, amour libre, négation de l'autorité, rejet de la propriété privée et du travail. Bien sûr, on retrouve tous les thèmes de l'époque. On trouve surtout quelque chose qui est contemporain à l'élaboration du film, mais qui n'a pas vraiment duré, les communautés hippies. Dans les années 70, écrira GB, gauchiste, autonomiste, insoumis, objecteur, gréviste spontané, autogestionnaire, antinucléaire, antimilitariste, antichasse, antifourrure, anticorrida, écologiste, lycéen en lutte, femme en lutte, tolard en lutte, tous se sentaient pousser des ailes. « Combien de personnages ?» lui demande Doyon. « Tous les gens vivants en ce moment, » répond GB. « Comment va-t-on leur faire savoir qu'ils sont engagés pour tourner dans un film ?»« Je vais publier en feuilleton le scénario dans Charlie Hebdo. Ils choisiront leur rôle. » Sur certaines pages, GB insère des lettres de lecteurs. C'est bouleversant de les voir intégrées à la bande dessinée elle-même. Et c'est déjà Internet, les commentaires en bas des vidéos, les commentaires du chat. L'an 01, c'est un monde où tout le monde parle à tout le monde. C'est un monde qu'on fait tous ensemble. C'est un certain Jean Blanquet, avenue Jean Jaurès, qui écrit à GB. L'an 01, toi qui le montres avec tes dessins, c'est le moyen. Le but, il est à l'intérieur de chaque homme. Le problème est d'inventer une nouvelle vision des choses. C'est pourquoi il ne faut pas changer d'abord les choses, mais bien les yeux. L'an 01, le film, va marcher. Sorti sur les écrans en 1973, ce sera 500 000 entrées. Si ça devait durer 50 ans, écrira Delphine de Thon, on mourrait dans son fauteuil de cinéma, heureux. L'an 01 aura duré 4 ans, 1970-1974. Il s'accomplit au moment où Charlie Hebdo atteint son pic de popularité. Il s'arrête après la mort de Pompidou, alors que Coluche monte et que le journal baisse. C'est alors le commencement de la grande réaction. Alors commence 50 ans de contre-révolution, de Giscard à Macron, le garant de l'injustice, là pour maintenir l'inégalité entre les hommes, le petit robot qui crève les yeux des Gaulois réfractaires. Ainsi commence la dernière guerre du monde. Nous y sommes. Macron.
Explosion !
Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous à la rentrée pour le tout dernier épisode de la série. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre aux éditions Florent Massot et Blast, L'Empire n'a jamais pris fin, tome 2 de Rabelais à la Révolution. Il contient un épisode inédit, quid de Sade. Alors, si vous n'aimez pas cette vision de Cavanna en Vercingétorix vaincu par Philippe Val-César et Charlie Hebdo face à Harakiri comme l'équivalent du détournement opéré par le christianisme face à la parole de Jésus, arrêtez de regarder ce programme. Recommencez tout, ne réfléchissez pas et soyez triste. Image, Cyprien Bizot. Assistant montage, Mehdi Lacal. Graphisme, Margot Simon. Graphisme, Morgane Sabouret. Musique, Baptiste Veillant. Son, Théo Duchesne. Réalisation, Mathias Enthoven. Réalisation et montage, Ameyès Aïtoufella.